Oui, bah on y va. C'est bon, j'ai compris que la musique était terminée. Voilà, ça c'est bon. Regardez, on va y aller doucement pour pas vous choquer vos petits yeux. On y va tout doucement pour ne pas choquer vos petits yeux. Est-ce que vous notez quelque chose? Bon, j'ai un câble management qui est assez insane, donc j'en ai partout là. Je suis assez fier de ça d'ailleurs. C'est un gros bordel, mais je m'y retrouve. Est-ce que vous... Ouais, nouvelle caméra. Je vais doucement, hein. J'ai mes toutes petites... tout petit écran là. D'ailleurs, à propos d'écran, je crois que on voit mon. Il faudrait que je zoome un peu quoi. Oh, c'est pas grave. Ouais, nouvelle caméra. On a investi, hein. On s'est acheté la petite caméra là qui va bien là, pour laisser les bons gros appareils à Joe pour l'émission du vendredi et nos expérimentations de stream à droite à gauche. Et donc j'ai investi pour une jolie petite caméra après avoir pas mal regardé sur internet, faire des recherches pour essayer de trouver le meilleur rapport qualité-prix de la caméra pour avoir une belle image. Voilà. Et avoir regardé aussi de quoi étaient équipés tous les streamers que j'ai croisés au Battle 4 week-end dernier. Alors, c'est un appareil photo, voilà, mais dont je me sers comme caméra de stream et qui marche bien pour cette activité-là. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Attention. Tac! C'est presque trop. C'est presque trop. Bon, faut que je travaille sur le cadrage. Je pense que je peux baisser un petit peu. Voilà, on chope du câble, on chope de l'écran. Mais c'était l'important n'est pas là. C'était est-ce qu'il y avait une belle lumière. Voilà. Je crois que ah oui. Oh, elle est magnifique, elle sublime ton visage. Vous avez pas tout vu. Alors je lis vos commentaires, je compte. Boy, en fait, je préfère l'autre caméra. Tu peux la remettre. Non, celle-là, elle est insane, celle-là. Voilà, quelle qualité, me dit McMurphy. Voilà, merci. Offrez un sub à cette personne, s'il vous plaît. C'est parfait. Quelle image. What else? Quelle image. Encore. Qualité impressionnante. Merci, Joe, pour le setup. Ah non, 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 attendez, qu'on soit clair. L'installation du matin, la revue de presse du matin, c'est 100% Bibi, hein. Les achats, l'installation, les réglages. C'est mon petit précaré, c'est pour ça que c'est souvent un peu approximatif d'ailleurs. C'est moi. Oh! Ça, c'est moi. Joe, il intervient sur un truc compliqué. C'est quand il commence à y avoir. Quand on met 15 micros, 6000 caméras. Et voilà. Non, 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 c'est moi là. Depuis le début, hein. C'est moi qui gère, hein. Ouais. Donc, c'est moi. Quand même. What else? Qu'est-ce que ça raconte? La belle image, oui. Oui, la même caméra de Bastu. Oui, Lolo le capitaine, c'est la même, effectivement. C'est ma vraie tête. Voilà, ça sublime mon visage. Tu fais des UV où t'es bronzé naturellement, mon effet à tout. Ça, c'est la caméra. Ça, c'est la caméra. C'est mieux que sur France Télévisions. Voici. Voilà quelqu'un qui s'est tourné un compliment. C'est mieux que sur France Télévisions. Écrit, moi, Matt est méchant. Il y a un peu de grain, MMG, mais il n'y a pas de grain. Il n'y a pas de grain. Voilà. C'est de la 3D. Oui. C'est un peu de 3D. Il reste. Oh, il y a le carton derrière. Il y en a que toi qui il reste même encore le carton derrière. Ouais, j'ai tout installé ce matin. J'ai mis le réveil tard. Hein. Grosse grasse matinée à 5h. Pour lire les journaux pour vous, bien sûr, c'est lu et on va se régaler. Il y a vraiment un truc intéressant. Et après, en fait, j'avais calé mon réveil pour pouvoir lire les journaux et installer la caméra. Ça m'a pris, what? 20 minutes en vrai. Par contre, j'ai pas ramassé les cartons. Fier, hein, ça veut dire concrètement, ça veut dire c'est pas juste tu ouvres le paquet, tu branches, hein, c'est aller voir les tutos sur internet des copains streamers, notamment pour le coup, il était aux États-Unis celui-ci qui te donne les bons réglages de l'appareil photo pour pouvoir streamer. Il y a plein de trucs à bouger quand même pour que cet appareil photo soit au top en matière de stream sur. La veille, sur la qualité de l'image, sur plein de choses, voilà, on fait ça, j'ai commencé par ça. Ensuite, il faut connecter le bousin via une petite carte d'acquis, voilà, donc ça c'est OK. Après, quoi d'autre? Eh ben, il faut faire tous les réglages de OBS, recréer les scènes et tout. 20 minutes! Mais en vrai! Pouf! 20 minutes! Incroyable. Voilà, donc j'ai enlevé la boîte, c'est fait ça. Le carton! Ouais, désolé. Tu devrais mettre mon plein écran avec le chat par-dessus. Ah, oh, j'aime bien comme ça. J'aime bien vous mettre un petit peu en avant. Merci beaucoup Yann J pour l'abonnement offert à McMurphy. Merci Noobie One pour le combien What? 20e mois d'abonnement, on est au max. On peut pas faire plus. 20 mois, on est maximum. J'ai ouvert les subs il y a 20 mois. Bientôt les 21 mois. John Ceintura. À 24, il y a une surprise, il y a un nouveau badge. John Ceintura, merci beaucoup pour le 14e mois d'abonnement. Pépin Camille, c'est quoi cette voix que je viens de prendre là? Très bizarre. La voix que je viens de prendre n'indique pas que je vais bientôt prêter ma voix à un film d'animation en vendant des NFT ou des t-shirts à 1000 ou 2000 balles. Attention, hein, n'allez pas interpréter des choses par rapport à ça. C'est juste un dérapage vocal, ça n'est pas... voilà. Non, non, non. Excellent, putain, les refs à l'actu. Oh, la vache, je suis un dingue. Ok, Pépin Camille, merci pour le... Ah non, je viens de dire, cette voix indique que tu vas devenir fort, hein, surtout, j'adore cette humour, merci Lucille. Je viens de dire que 20 mois c'était le maximum, pas du tout, les premiers y arrivent, Pépin Camille vient d'arriver. Pour la première fois de l'histoire, de l'humanité et de ce stream, au 21e mois. C'est le maxi, on peut pas faire plus. On est à 21 mois, je crois que Pépin Camille, c'est la première fois que je vois un 21e mois dans ce chat. Une dinguerie. C'est vrai que j'ai bonne mine. Pépin, ouais. Oh Pépin, comment vas-tu Pépin? Pépin, notre graphiste, notre artiste préféré qu'on va retrouver bientôt. Oh les poumons, c'est pas encore ça. Qu'on va retrouver bientôt à la régie, vous savez, comme au musée du Quai Branly, pour un autre stream dans un musée, aux alentours du 27 mai. C'est pas aux alentours du 27 mai, c'est le samedi 27 mai. Je ne vous ai pas révélé encore le musée. Je ne vous ai pas encore révélé qu'il y allait avoir deux invités. Vous savez, on a streamé à Bordeaux, au muséum de Bordeaux avec Jamy Gourmaud. On a streamé la semaine dernière en direct du musée du Quai Branly avec l'ami Étoile. Deux invités le samedi 27 mai dans un autre musée. Eh oui, je n'ai rien dit. Il y aura Pépin à la régie, bien sûr. Pépin, l'anti-Pépin. Excellent. C'est pas de moi, c'est quelqu'un dans le chat. Non, c'est quelqu'un du musée du Quai Branly qui avait trouvé ça. Ah. Ouais. On est le 28. Et alors, j'ai dit une bêtise sur la date, m'as-tu trompé? Je parle du 27 mai. 27 mai pour le stream du... J'ai dû dire une bêtise sur la date. Ouais. C'est le 27 mai, hein. 27 mai, hein. On est en avril, là. C'est dans un mois, quoi. Il y a un petit truc bord noir en bas à droite. Oui, c'est mon. Ah, bon, c'est rien ça. Eh, hey, regarde. Tu vois? Le roi de la techno. Donc, effectivement, il y a un petit truc là. Voilà. C'est réglé. Bon, ça, c'est autre chose. Ça, c'est un truc que je mets entre ma table de mixage. Que vous voyez là, un petit peu ici. Et le micro pour avoir plus de puissance au niveau du son. Sans avoir de souffle. Dinguerie, je ne sais plus comment ça s'appelle. Cloud Shifter, tout comme ça. Formidable. Voilà, mais c'est, alors pour le coup, j'ai pas encore fait des top réglages au niveau du cadre. Je voulais vraiment, j'étais tellement pressé de vous montrer ma nouvelle caméra. Donc là, c'est la tablette avec les journaux. Voilà, vous retrouvez l'ami Tétin, Pépin, Tintin, c'est Pépin qui me trouble. Et ici, Samuel Etienne. Tiens, d'ailleurs, on pourrait pousser un petit peu le. Ce serait peut-être plus joli. Il faut le pousser doucement parce que j'ai encore tout faire tomber. Tiens, on va pousser, ça va être plus joli. Ah.
Doucement.
Calme. Hop. Ok. Tiens, je l'ai fait tomber. Une fois, je l'ai cassé en deux. Ça tient avec de la colle. Ouais, pas mal. J'ai déjà cassé une fois. Ouais, je sais, je suis un peu maladroit. Ouais. Vous êtes coquin, hein. Ouais, donc, quoi, que vous dire encore? Oui, donc voilà, nouvelle caméra. Super réglé. Et Pépin dans les Blue Etienne. Pépin dans les Blue Etienne, ça va arriver. Bon, on va se caler ça bientôt. Je vous remercie tous. Et Yanji a encore offert un abonnement à MacMurphy78. Merci. NubiOne, merci beaucoup pour le 20e mois d'abonnement. John Ceintura pour le 8e mois. Je crois que j'ai déjà dit merci. Oh, c'est pas beau de vivre. Enfin, il vaut mieux vivre deux fois. Oui, j'ai bonne mine ce matin. Vous êtes plusieurs à me demander, mais pourquoi? Est-ce que j'ai pris des couleurs? En fait, j'ai dormi, puisque j'ai dormi de minuit à 5h du matin. Et en fait, ce matin, j'ai lu la presse. avec les cheveux comme un hibou et bref. Et puis après, j'ai pris ma douche, quand même, vers quelle heure? Bah, 8 heures, ouais, 8 heures. Et après, je me suis regardé dans le miroir. Et je fais, hey! Espèce de beau gosse! Waouh! Et en fait, j'ai vu, j'avais dormi, en fait. Et vraiment, ça se voyait, quoi. Au niveau de l'œil, hop, l'œil pétillant. La peau, quoi, tout ça, quoi. Ouais! Et 5 heures de sommeil, mais en fait, c'est vraiment une dinguerie de sommeil, hein. C'est un concept de fou, hein. Et c'est fou. Et vraiment, j'ai vu que j'avais bonne mine, quoi. Ouais, je suis content que vous le remarquiez. Voilà. Bon, la caméra, après, comment dire, ne sublime pas le bonhomme, mais permet justement de voir ça. Voilà. Est-ce que ton cerveau, il fonctionne bien avec 5 heures? Bah, il fonctionne à peu près avec 3 heures, donc avec 5 heures, il fonctionne très très bien, quoi. Ah, j'aime les hey beau gosse dans le chat. Merci, Asdakuren. Mais oui, Pépi, hein, ça fait tellement du bien de dormir, c'est vrai. J'adore. Oui. Ah oui, Alexandra, c'est tout. Je pars en vacances demain. Je pars en vacances demain. Autre info, donc je vous ai donné une info sur le musée dans un mois de folie, là, avec deux invités exceptionnels, pour imiter un streamer que j'aime beaucoup. Et donc, je pars en vacances demain, et ça va être des vraies vacances. Ça va être de vraies vacances. Parce que j'ai décidé de prendre des vraies vacances pour les consacrer à ma famille, pour aussi réfléchir à deux, trois trucs sur la fin de saison et sur la rentrée prochaine, parce que j'ai des jolis projets. Et donc, je vais prendre de vraies vacances. De vraies vacances sans France Info, de vraies vacances sans Question pour un champion, de vraies vacances non pas sous le seul lac des tropiques, comme l'écrit Okats dans le chat, mais de vraies vacances sans stream. Alors là, je m'excuse, j'en suis désolé, parce que la tentation a été grande d'emmener dans une petite valise, on va dire, voilà, un petit setup minimum pour streamer en vacances, quoi, ce que j'ai souvent fait, vous le savez. Et donc, une semaine. Donc, je vais pas streamer pendant une semaine. J'en suis désolé. Même Hélène m'a demandé, alors, t'emmènes ton setup, tu vas streamer. Et j'ai dit non. Et là, j'ai vu dans son regard une petite lumière s'allumer. Quoi? Tu ne vas pas streamer pendant les vacances? Ouais, et ben j'ai dit non. Voilà. Donc, ces vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. Sauf de la famille. Donc, du temps avec Hélène, du temps avec les enfants. Il y a Léo dans le miroir qui dit, tu n'y arriveras pas, lol. Je n'emmène pas mon matos. Donc, je ne pourrai pas streamer. Voilà. Donc, je suis désolé. Tu m'excuses, mais je reviens après. Et après, c'est non-stop jusqu'à l'été. Et alors, je ne sais pas encore si en juillet. Juillet, vous savez, je pars en Corse. Depuis quelques années, je tombé amoureux de la Corse et j'hésite. Est-ce que je stream depuis la Corse ou je remets ça pour les vacances, pour avoir ce beau visage tous les matins, pour passer du temps avec la famille, refaire du sport? Ça y est, je me suis remis au sport. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, pour retrouver mon énergie d'antan. Ça, c'est cool. Et donc, voilà, j'hésite. J'hésite. Ça, c'est pas décidé encore. Mais voilà. Donc, pause la semaine prochaine, voilà, pour juillet ou pas. Voilà. Où ça en Corse? Bien sûr, Lilou. Je vais vous inviter à prendre un café. Voilà, on vient de démarrer, vous êtes 1500. Je vais vous inviter à prendre un café à la maison. Bien sûr! Évidemment! Évidemment. T'en as pas, non? J'aurai jamais assez de café. Vous êtes fou, quoi. Voilà. Alors, je ne vous ai pas tout montré sur la caméra, parce que l'un des intérêts de cette caméra, qui est assez appréciée de pas mal de streamers, c'est qu'elle fait le point tout seul. Donc, petit premier test. Normalement, si je fais ça, voilà, elle va faire le point sur moi. Voilà. Et derrière, ça devient tout flou. Regardez, c'est incroyable. Autofocus, automatique, permanent. Tac. Et hop, normalement, elle doit faire le point. Hop, hop. Regardez, incroyable, elle a fait le point sur la main. Vous avez vu? Mes petits doigts là, c'est à moi ça. Tac. Et hop. Oh! Incroyable. Hop. Hop. Oh, incroyable. Hop. Hop. Ah. 2 ans et demi. 2 ans et demi, et je m'amuse encore comme un petit fou. Peut-être zoomer encore un peu, peut-être. Oh, on fera le zoom après. Je changerai le cadre après. Pas mal, hein? Hop! Alors ça, c'est un des plus de cette caméra. C'est-à-dire que bon, j'avais un très gros boîtier que Joe me prêtait, là, un gros Canon EOS, un truc vraiment image de qualité, hein, avant. Voilà. Et bon, bah, c'était un peu compliqué parce que du coup, comme je l'enlevais pour les émissions avec Joe quand on recevait du monde, il fallait que je refasse tous les réglages. Après, je perdais du temps. Ça m'énervait, donc je me suis dit, j'aurai ma caméra à moi. Joe, si tu es là, tu ne touches pas cette caméra. Joe, si tu regardes ce stream, tu ne touches pas cette caméra, c'est ma caméra. Je vais la cacher d'ailleurs. Donc comme ça, j'aurais plus de réglages à faire. Et elle ne faisait pas ça. Donc elle avait un autofocus pour faire un réglage une bonne fois pour toutes en début de stream, mais elle avait pas un autofocus automatique qui suivait en permanence, quoi. Et donc là, ça fait ça, quoi. Donc hop, si on bouge, ça suit, quoi. C'est fou, hein. Voilà. Donc c'est top. Je suis trop content. Alors, pour avoir un autofocus très réactif, très rapide comme ça, bah, je suis allé dans les réglages justement en regardant le tuto de ce streamer américain tout à l'heure là, pour parce qu'il faut lui demander d'être un peu réactif. Hop! Hop! Incroyable, c'est moi qui l'ai fait. Ah, je suis trop content, trop content. Hop, j'arrête. Il y a Didine qui, ça y est, va faire le point sur sa main pendant 3 heures. T'as vu le stream hier de Samuel? Oui, c'était bon, c'était un peu lassant hein, ce qu'il a fait. Hop, hop, pendant 3 heures quoi. Voilà. Oh là 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 là. Oui, t'as raison, Captain Cosmos. Le focus est un peu brutal. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de régler un paramètre pour avoir un autofocus qui glisse plus? Ouais, t'as raison. Je ne suis pas sûr que ce soit possible. Alors, c'est pas non plus une caméra de. Bon, ça m'a coûté un peu de. L'image, la belle image, hein, ça coûte cher. Après, j'ai pas mis des 1000 et des 100 non plus. Donc, peut-être qu'il y a encore mieux pour faire un effet glissé comme ça. Mais là, je crois que ce n'est pas possible. J'ai perdu un pari et j'en suis désolé. Merci pour ton 6e mois d'abonnement. Quoi? Bonjour, deux santé stream. Quoi, il manque un mot. 2 jours de santé stream, peut-être. C'est presque aussi difficile qu'une journée sans café. T'étais pas là? Bah, dis donc. T'étais où? Bonnes vacances et longue vie à tes streams. Oh, merci, merci, merci. A priori, la rentrée prochaine, on va encore plus streamer, quoi. Comment ça, j'ai des airs de Louis de Funès? Alors. Excusez-moi, je remonte sur l'historique d'un quelqu'un dans le chat qui a dit une dinguerie là. Je regarde juste si c'est dinguerie sur les 31 messages dans le passé ou c'est dinguerie juste parce que mal réveillé ce matin. On a une modération un peu chill ici, quoi. Voilà. Ah, c'est peut-être souvent un peu énervé quand même. Quand même, hein. Ah, t'es souvent quand même un petit peu border, hein. Ah, c'est moyennement intéressant quand même. Ah ouais. Ouais. Humour, pou, 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 pou. Oh là là. Ouais. Oh là là, oui. Ça, oui, c'est l'humour. Oh là, c'est l'humour de comptoir un peu, hein. Passer quelques apéros quand même. Ah, oh, c'est pas. Oh là là. C'est-à-dire que c'est pas franchement illégal, quoi, mais c'est souvent très limite, hein. On sent plein d'influences Zarbi derrière, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Refur Bichet de Tube Equalizer. Tu vois un peu ou pas? Que c'est par rapport au débat sur la réflexion sur l'actualité qu'on fait au quotidien. Les échanges les plus chill et intelligents possibles entre nous pour essayer d'élever le débat. Est-ce que tu vois que l'intégralité de tes 31 commentaires sont un peu sont pas trop dans ce qu'on essaye de faire en fait. Alors après, on est très ouvert ici et donc on est très open pour discuter de ça. On essaie de définir un cadre éditorial qui est plutôt de s'interroger ensemble sur l'actualité et certes d'en rire et de dire des bêtises, mais d'essayer aussi de poser les bases d'un débat constructif. Et l'intégralité de tes 31 commentaires, en fait, sont sur autre chose, quoi. Avec un humour un petit peu. Je sais pas ce que tu en penses. Mais pourtant, tu es là de temps en temps, tu es là souvent. Donc, je pense que tu apprécies peut-être ce spectacle. Tu y participes d'une façon un peu particulière. Je te propose un petit ban provisoire pour réfléchir en fait, à la tonalité, au ton de tes commentaires. Ça se veut peut-être humoristique, mais en fait, ça peut, pris au premier degré, c'est un peu limite. Donc, ça n'est pas un ban def, c'est un ban provisoire pour réfléchir à la façon dont tu formules tes commentaires. Voilà, c'est Papy Sam qui le met en place. Voilà. On essaie d'échanger. Voilà. Voilà. Alors, on en est où sinon? Bon, on dépasse pas. Maintenant, on a pris un engagement de ne pas passer les 30 minutes d'intro. Hein. Alors. Qu'est-ce que ça raconte? La fiche de Tintin, c'est un tableau que mon beau-père m'a offert. Hello, Yanxis qui vient pour la première fois ici. Merci pour le gentil message. Oh, j'avais pas vu le raid de Martin Martin. J'arrive Martin. Locon 71, merci pour le gentil message et le 17e mois d'abonnement. Martin Martin, meilleur DJ de Twitch, vient de nous faire un joli raid. Vous êtes super nombreux. On vient de commencer, vous tombez parfaitement, on n'a pas commencé le sommaire. Alors je lis quelques messages. Ah, super, je voulais pas donner la marque de mon appareil photo pour pas trop faire de pub parce que je l'ai payé plein pot. Et ça balance, les modos, ça y est, ça balance dans le chat. Hein, voilà, la marque, la ref. Mettez le prix aussi, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Super. personne n'avait remarqué que j'avais pas donné la marque et le modèle depuis le début de ce stream. Non, personne. J'adore. Ça balance. Pff. J'adore. Merci Lambert le boss pour le 5e mois d'abonnement et le gentil message qui va avec. Je vois un bonjour des USA. Salut Vic. Vic avec plein de i. Bon, c'est vrai que j'en avais parlé dans les streams précédents, mais je l'avais pas encore acheté. Donc c'était différent quoi. Voilà. Super. Allez, encore 2-3 messages et on démarre. Oh, Marine écrit. Mon fils de 7 ans m'a rappelé d'allumer Twitch ce matin. Mais maman, pourquoi tu ne mets pas la matinée Étienne? J'aime bien moi. Oh. Liolo, pour éviter des bans, tu pourrais nous expliquer les traits d'humour qui sont tolérés et ceux qui ne sont pas. En fait, si tu pouvais voir les 31 commentaires de la personne que je viens de bannir provisoirement, tu verrais que je parle d'humour, mais c'est pour être gentil, hein. On est plus sur du commentaire un peu limite avec des critères un peu particuliers quoi. Mais comme je suis une gentille personne, je dis ah, c'est peut-être que c'est de l'humour. Mais voilà. Non, l'humour est très bienvenu ici. J'ai un bonjour de l'Ardèche. Salut Zrotox. Voilà. Merci pour le petit message, Marine, ça m'a fait bien gentil. Et je salue ton fils. Je vous rappelle que c'est double peine aujourd'hui. Hein. Vous allez vraiment prendre plein la tête, les yeux et les oreilles, puisque aujourd'hui, on fait 2 streams. Moi, ça m'arrive le vendredi quand je suis très en forme. Donc, matinée Étienne ce matin. Et, je vous rappelle. Tiens, où ça va? Là, ça devrait marcher. Je vous rappelle que ce soir, on a la 31e de l'hebdo Étienne. Voilà. Avec ces beaux gosses là, bon bah il se trouve que c'est que des garçons, voilà. C'est un peu le hasard, hein, c'est papy qui fait la programmation, donc c'est du boulot, faut qu'il y ait 4 personnes à la fois, voilà, donc parfois j'arrive à faire mon petit mélange comme j'aime bien, là c'est 4 gars, petite citrouille, ah mais je croyais que c'était hier soir, bah non c'est le vendredi, tous les vendredis, c'est la 31e, on reçoit donc Link, Julien, Chaise, Zach, Moment, vous vous doutez bien qu'avec cette line-up, on va beaucoup parler notamment de gaming, de jeux vidéo, de Twitch. Voilà, on est entre couillasses, comme dit le Club Med, c'est ça, ce jour, on est entre couillasses. Et du coup, j'ai un peu adapté les thèmes, donc on va revenir un petit peu sur l'actualité politique. La question que je me pose, c'est un des thèmes que je propose ce soir, c'est où va l'exécutif, puisqu'on a une semaine intéressante entre les déclarations du président Macron, la feuille de route d'Elisabeth Borne, donc là, il y a un questionnement intéressant. J'ai très envie de savoir ce que Moment, Zach, Julien et Link vont dire de l'actualité politique. Voilà, donc ça c'est un premier thème, je leak un petit peu. On va parler aussi de cette enquête qui a été publiée cette semaine par l'IFOP sur le sexisme dans le gaming. Voilà, est-ce que le milieu du gaming est un milieu sexiste? Voilà, vous savez qu'on a des témoignages de gameuses, de streameuses ces derniers mois qui, à minima, doivent nous faire réfléchir sur ça. Et on a une enquête qui se veut la première enquête en France sur ce phénomène. Voilà, donc on en a parlé hier matin dans la revue de presse. Et bim! Eh ben, je vais en parler avec nos invités ce soir. Alors le hasard veut que, parce que je ne détermine pas les invités en fonction de l'actualité, les invités sont calés 2-3 semaines à l'avance, tu vois, parce que c'est pas facile de caler 4 personnes comme ça, qui parfois d'ailleurs vivent pas à Paris, quoi. Et donc, les thèmes, je les détermine au dernier moment, jusqu'à la veille ou le jour même, quoi. Donc, bon, c'est vrai que 4 gars pour parler du sexisme dans le gaming, en vrai, bon. Mais je pense que, comme ils connaissent très très bien ce milieu, ça peut être intéressant aussi. En vrai, j'aurais su que j'allais proposer ce thème, j'aurais invité au moins une ou deux filles, quoi. Voilà. Bon. Voilà. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais on peut avoir des bonnes surprises. Voilà. Voilà. Donc c'est ça. Puisque j'ai des passionné de gaming là. On va parler de l'actualité du jeu vidéo avec les dernières sorties. Voilà, il y a un Zelda là notamment, entre autres choses. Et puis il y a ce jeu très 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 réaliste là, qui fait un peu flipper. Donc on va parler de ça et d'autres choses. Donc et puis un quatrième thème. J'ai oublié. Sexisme, l'actualité politique, l'actualité du jeu vidéo et. Pense bête, ordinateur. Non, pas Twitter Blue, parce que vous en avez marre que je parle de Twitter. J'espère que vous n'avez pas vu mon mot de passe. Ça me les tienne 1, 2, 3, 4. Alors. Macron bord nouvel exécutif. Le gaming est-il sexiste? Zelda Unrecord, le jeu super réaliste là. Jeux vidéo, les dernières sorties. Non, ça n'est pas le thème mystère de question pour un champion, c'est un vrai thème. Oh, ce serait drôle. Oh, la pure idée. Un thème mystère. Ouais, bien caché, hein, la marque de l'ordi, on ne voit pas du tout que c'est un Apple. Hein. Tout à fait. Non, c'est quand je fais des trucs à la télé, tout ça. Mais bon, ça sert à rien puisque chacun, tout le monde voit ce que c'est. Bon, j'aime bien un peu en vrai. Non, le dernier thème, c'est. Vous êtes prêts? Streamer, YouTuber, meilleur métier du monde. Et là, je rebondis en fait sur une intervention récente de Seb, vous savez, ex-Seb Lafrite, qui a déclaré un peu en mode fâché dans une ITV, j'ai du mal avec les ouin-ouin des YouTubers. C'est le meilleur métier du monde. Les gosses veulent faire ça. Arrêtez de vous plaindre, les gars. Ça a provoqué pas mal de réactions. Et donc, les amis, là, notamment, qui je crois que c'est Moment et Link, m'ont dit, tiens, on pourrait peut-être parler de ça. C'est sorti du contexte. C'est ce qu'il a dit après. Je suis allé voir, moi, le contexte. Je suis allé écouter. Il dit, ah oui, mais alors on pense qu'en fait, d'après ce que. Je suis allé réécouter après ce qu'il disait. On pense en fait que je parle de. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, je suis nul. Qu'est-ce qu'il dit? On pense en fait que je parle de la pression, de la charge mentale. Lié à quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Aidez-moi, bon, je suis sûr que vous avez suivi ça. Vous l'avez ou pas? Ouais, voilà, de la notoriété. Merci, saison 4. Après, il fait un correctif, il dit, ah, mais alors, les gens n'ont pas compris. Les gens ont compris que je parlais de la charge mentale liée à la notoriété qui est dure à gérer. Ben non. Non, en fait, pas du tout. Ben, moi, j'ai bien compris qu'il parlait du fait qu'il fallait pas se plaindre d'être créateur de contenu, streamer, youtubeur, parce que c'était le meilleur métier du monde. Voilà, et qu'il fallait pas se plaindre parce que c'était topissime. Ben, en fait, non, je ne vois pas du tout en quoi ça aurait pu être mal compris. J'ai pas l'impression que les gens ont compris qu'il parlait de la notoriété, de la charge de la notoriété. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui disent ouais, bah attends, c'est quand même un vrai boulot, contrairement à l'apparence que les streamers, les youtubeurs veulent donner, de pas forcément mettre en avant le fait que c'est difficile. Et mais de dire que c'est le meilleur métier du monde. Moi, je trouve que c'est intéressant ce débat. Parce que, notamment par rapport à un jeune public, moi, je te donne un petit peu ma position, par rapport à un jeune public, dire c'est le meilleur métier du monde, en cachant le fait que c'est super dur de percer. Je sais pas si Seb, que je connais pas du tout, a pensé. À 95% des streamers, streameuses français qui aimeraient peut-être percer. Et en fait, malgré l'investissement, le temps, l'énergie, la passion, on n'y arrive pas, quoi. Et donc, cette situation qui est la vraie situation des créateurs de contenu en France et la déclaration « c'est le meilleur métier du monde, faut pas se plaindre », alors que justement, certains souffrent un peu de cette situation, certains et beaucoup, je dirais, de beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, beaucoup de passion et puis pas un gros retour sur investissement. Bah en fait, il y a débat, quoi. Voilà. Donc, on parlera de ça avec nos amis, quoi. Voilà. Oh! Ah, ça m'étonnerait. Un foréa, non. Je lis pas ton message, il est trop gentil pour moi. Non, non. Moi, je crois que. Non, non. C'est très gentil, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Quelle heure il est? Quelle heure il est? Quelle heure il est? Parce que je parle. On va parler d'actualité. Donc, en plus, je vous quitte à midi. À midi. Dans 2 heures, je vous abandonne parce que j'ai 2 calls. J'ai un call à midi pour une opération sympa. J'en dis pas plus là. Moi, j'en dis pas plus parce que si je dis un mot, vous allez tout comprendre. Et un autre à 13h avec une autre opération sympa, un autre truc à propos de. Et j'en dis pas plus parce que voilà. Mais tout ça, c'est pour Twitch. Une grosse partie de mon énergie est tournée vers ça. Vous le savez, Renifleur de Paix, P-A-I-X. Merci beaucoup pour le 17e mois d'abonnement. Et c'est parti, voilà, pile poil à 10h. Beau, hein? Beau, hein? Tarte aux myrtilles, mais oui, je sais. Il me dit, je vais regarder le stream ce soir, j'aime les intervenants, mais parler de sexisme au sein d'un contrepoids féminin me gêne, mais bon, bah, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que je calme mes invités à J-15 et je calme mes thèmes à J-1. Parler de sexisme dans le gaming sans femmes. Alors après, c'est un sujet qu'on aborde souvent ici, hein. J'ai reçu plusieurs fois Mademoiselle Sony à la maison, qui est une streameuse. J'ai reçu plusieurs fois Mimi Hegel à la maison, ancienne journaliste, streameuse. On a beaucoup parlé de ça avec ça. J'ai reçu le Trivia, Little Big Whale deux fois. J'ai reçu Avamind. J'ai quand même reçu pas mal de femmes, et notamment de streamers ici, donc c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé, quoi, déjà. Mais bon, là, c'est vrai que pas de femmes ce soir, c'est un peu bon. Mais j'espère qu'on va arriver à un truc intéressant. Voilà, je suis d'accord. C'est vrai. Bon, je le redirai ce soir, d'ailleurs. Evanuel, je ne suis pas d'accord, mais si tu as des grosses palpitations... Et après une nuit blanche, ben c'est que t'es fatigué. Moi, je serai toi, je poserai un jour. Hein. Voilà. Si tu te sens pas bien, t'as le droit de pas aller bosser aussi, hein, en vrai. Voilà. Il y avait Zora, bien sûr, ma collègue de France Info, Zora Ben Miloud, qui est venue, mais qui est pas streameuse. Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi pas la femme de Julien? Bah parce que je pense que je vais l'inviter un jour, mais je vais pas inviter les couples, quoi, parce qu'après on va dire, ah ben c'est bon, on t'invite les couples maintenant. Donc oui, c'est prévu. Bien sûr. Plusieurs m'ont parlé d'ailleurs. Mais j'avais calé Julien il y a 15 jours, 3 semaines. Quoi. Vous voyez voilà. Bon, on bosse ou quoi là? Ça discute, ça discute. Merci, Je crois que j'ai bien prononcé ton pseudo pour le 10e mois d'abonnement. Marie Palot, on a reçu Marie Palot plusieurs fois, deux fois déjà. XX Super Power X qui écoute bien tout ce que je dis, qui dit peut-être inviter une femme streameuse. donc je cale les invités 15 jours avant et je décide les thèmes un jour avant. Donc je peux pas. Les gens qui ont. Les garçons là. Qui ont calé. Oui, MMG, on a parlé d'Avamind déjà. Tout à l'heure. Les garçons que j'ai calés, qui souvent ont annulé des choses pour ce soir, ne peuvent rien faire d'autre. Parfois viennent depuis des villes éloignées. Je ne peux pas leur dire à J-1, hey, au fait, changement de thème, donc du coup, toi, tu viens pas. Quoi. Je ne peux pas faire ça. Impossible. 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 C'est super mal poli. Quoi. Voilà. Donc, voilà. Hein. Voilà. Sinon, il y a Brie-Pain qui propose, fait l'inverse, invite les gens la veille et prépare les thèmes 15 jours avant. C'est du boulot, hein, de caler 4 personnes différentes, voilà, avec certains parfois qui annulent au dernier moment et tout. C'est un gros taf, quoi. C'est un gros taf. Donc, tu vois, Moment, il vient de Montpellier, par exemple. Tu vois, me rappelle Majmi Lambert. Voilà, donc... voilà. Alors, moi, j'ai déjà eu des émissions quasiment qu'avec des femmes. Genre deux femmes sur trois invités. À l'époque, je faisais trois invités. J'ai eu des full garçons, j'ai eu des mélanges et tout. En vrai, je vise plutôt à équilibrer, mais j'y arrive pas toujours, quoi. Voilà. Ouh, bien bon ça. Alors, c'est parti. Allez, go. Pour ceux qui sont là pour la première fois, qu'est-ce qu'on fait le matin ici? On lit les journaux. Ça s'appelle. Toi, je vais te recharger parce que manifestement, tu ne bougeais pas, les amis. Hop, ça fait trop long, tu vois, l'intro était trop longue, et hop, du coup, ça devrait marcher, je pense. Voilà, super. Et du coup, on lit les journaux le matin, la presse écrite nationale, c'est un choix très subjectif, enfin subjectif, assez objectif, puisque moi je kiffe lire la presse nationale quotidienne, c'est une info que j'estime de grande qualité, donc je pourrais lire la presse régionale que j'ai lue à une époque, on pourrait lire la presse magazine aussi, mais pour un moment que les streams ne durent pas 10 heures, j'ai choisi la presse nationale quotidienne, Libération, vous avez ici Le Parisien, Le Figaro, L'Opinion, Les Échos, La Croix, L'Humanité, L'Équipe, etc., etc. Pourquoi pas Mediapart? Thibaut, c'est un bon média, mais Mediapart n'est pas un quotidien national d'information. C'est juste un choix en fait, pour pas lire pendant des heures le matin, parce que le temps de lecture, c'est, on va dire, 3 heures pour arriver à ce que je vous propose, c'est-à-dire que l'idée est de lire tous les quotidiens nationaux pour voir tout ce qu'il y a et pour que quelqu'un ne puisse pas me dire « Ah, mais t'as pas vu cet article, c'est dommage, c'est intéressant. » Donc je lis tout. Mais si je rajoute de très bons sites d'actualité sur Internet, comme Mediapart par exemple. Ah, la caméra a sauté. Oh! Ok. Oh, ah, c'est drôle. Comment on fait ça? Alors, attends, est-ce que c'est un problème de cam? Est-ce que c'est un problème de cam? Je vais sur OBS. Bougez pas, hein. Pff, c'est rien du tout, ça. C'est que dalle à faire. C'est que dalle. Alors, ma caméra, elle est où? C'est celle-là, c'est la nouvelle caméra. Où es-tu? Voilà. Ah! Là, elle est là. Ah, elle a juste sauté. Là, ici. Ah, mais je sais! Je pense que je n'ai tout simplement pas. Je pense qu'on va le faire en direct, regardez. Je pense que je ne l'ai pas rajouté sur cette scène. Vous avez vu? L'ingénieur. L'ingénieur! Oh là, oh, c'est trop. Non, c'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop, c'est presque trop. J'ai juste oublié de rajouter la nouvelle source, en fait, tout à l'heure, quand j'ai rajouté mes sources. Voilà, regardez. Hop. Là, elle est là. Là, elle est là. Là, elle est là. C'est les différentes sources, vous voyez. C'est moi qui fais tout ça avec mes petits doigts. Hein, voilà. Et là, je ne l'avais pas mise, en fait, c'est tout. Oh là 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 là. Mais c'est trop. C'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. J'ai réglé ça en 2 secondes. Voilà. Il y a 2 ans et demi, c'était 2 jours de panique. Hein. C'est bon, je vous laisse, j'ai un problème de caméra. Maintenant, c'est. Mais oui. Donc, Mediapart, en vrai, c'est un vrai très bon média. Sauf que, voilà, pour des raisons de temps, de prépa et de lecture, je ne vous lis pas tout. Alors, parfois, Mediapart et d'autres médias sortent des énormes trucs. Dans ce cas-là, on va voir. Hein. On va voir, bien sûr, on fait une petite exception à la règle. Voilà. Mais ça, je n'ai rien contre Mediapart. C'est un bon travail. C'est un bon travail. Voilà. Si le Samemud, il y a 3 ans, me voyait. Ouais, c'est fou. Hein. C'est fou. Hein. C'est fou. Nachinovski. Merci beaucoup pour ce Prime. Manque 84, merci pour le 4e mois d'abonnement. Et c'est parti. Donc, une revue de presse tous les matins. Et on commence par un sommaire. Comme ça, ceux qui sont là pour la première fois, eh bien, vous avez l'essentiel de l'actualité. Let's go. Libération, je vous l'ai mis en premier ce matin. Pourquoi? Parce que dans Libération, il y a vraiment pas mal d'articles intéressants. Les journaux, c'est comme nous, ils sont plus ou moins en forme. Parfois, dans un journal, moi, je vais trouver 0 article intéressant. Ça arrive selon mes propres critères, bien sûr, c'est très subjectif. Ou 1, ou 2, ou 3. La Libération est excellente aujourd'hui. Une interview exclusive de Sophie Binet, qui est la nouvelle numéro 1 de la CGT, qui estime que le pouvoir s'est radicalisé. On commencera par cette interview. Pourquoi? La numéro 1 de la CGT, c'est la première fois qu'une femme prend la tête de la CGT. C'est une petite révolution. Et c'est la première fois que c'est une cadre, par ailleurs, qui prend la tête de la CGT. Et donc, pourquoi elle estime que le pouvoir s'est radicalisé? C'est une question qu'on va poser ce matin. Ça, c'est à lire dans Libé. On parlera de sécheresse aussi. Plusieurs journaux en parlent ce matin, mais c'est vraiment Libération qui en parle le mieux, qui en parle le plus ce matin. Voilà. Là, c'est vraiment c'est chaud, c'est le cas de le dire. On a un vrai problème de sécheresse, de nappe phréatique en France. Voilà, il n'a pas assez plu, notamment cet hiver. Donc, on n'est non pas dans le saut dans l'inconnu, mais le chaud dans l'inconnu. Il va y avoir une femme aussi à la CDT, je sais, King Julian, mais ce ne sera pas la première fois, puisque Nicole Notta, si je ne dis pas de bêtises, a été patronne de la CFDT. Et là, pour... la CGT, c'est la première fois. Donc on lira ce papier sur la sécheresse qui est vachement intéressant. Et vous voyez, le débat ici lancé par Sophie Binet, qui dit que le pouvoir s'est radicalisé, eh bien il se poursuit dans Libération, c'est intéressant, avec 2 regards opposés sur cette question. Est-ce que la France est devenue, alors certains disent une dictature, hein, on entend ça parfois, une démocratie illibérale. On verra ce que c'est une démocratie libérale, disent certains spécialistes. 2 regards opposés. Vous avez Eugénie Mériot qui dit oui, il y a une dégradation. La France est devenue une démocratie illibérale. Voilà. Donc, pour faire vite, c'est une démocratie où oui, il y a des élections, mais dans la pratique du pouvoir qui fait qu'en fait, les citoyens sont, à minima laissés de côté. On va dire ça comme ça. Donc, Eugénie Mériot, spécialiste de droit public, dit oui. Et... la parole aussi à la Défense, à Marc Lazare, qui est historien, qui dit « Mais non, pas du tout. Pas du tout. La France d'Emmanuel Macron n'a rien d'une dictature. » Eh bien, on va se pencher là-dessus et puis on, comme ça, on aura des arguments de chaque côté. Vous ferez votre avis parce que l'idée ici, c'est de vous donner des éléments, non pas pour que je vous dise quoi penser, évidemment, non pas pour que les journaux vous disent quoi penser. On essaie de lire des avis différents pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. C'est l'objectif. Alors, illibéral, pas avec un E, c'est pas comme e-sport, hein, c'est illibéral, I2L. Voilà. Voilà, certains ont déjà un avis. John Snowboard, c'est une dictature. On va voir. Rafoukre, merci pour les bits. All All, joli pseudo. Merci pour le Prime. Donc, on continue avec le Figaro. Voilà, donc le Figaro qui n'a pas la même ligne éditoriale que Libération. Libé qui est un journal qui s'assume de gauche, le Figaro qui est un journal plus conservateur. Avec un dossier très intéressant sur la crise du logement. Voilà, j'ai lu quelques papiers ces derniers jours sur le sujet, mais là, le Figaro est vraiment très intéressant. Il y a une crise du logement en France. Comment la caractériser et pourquoi c'est inquiétant, sinon grave. On lira le Figaro là-dessus qui fait un joli dossier pour ceux qui ne connaissent pas ce dossier. Qui m'écrit? Qui m'appelle? Des gens très tôt. Il y a mon amoureuse. Oh! Excusez-moi. Parce que mon amoureuse est partie en vacances plus tôt que moi. Voilà. Et, voilà, elle est bien arrivée, j'en suis content. Excusez-moi. L'amour, c'est plus important que le stream. C'est une belle phrase que je viens de dire. L'amour. Si vous voulez, si vous êtes artiste, n'hésitez pas, je vous donne les droits à en faire une chanson. L'amour, c'est plus important que le stream. Pas... Super. L'amour. Excusez-moi. Hop, voilà. C'est de Balavoine. Ah oui, l'amour, c'est plus. C'est plus fort que d'être aimé, c'est un truc comme ça? C'est ça? Un truc comme ça? Hein? Après, il y avait l'amour du risque aussi, c'est une vieille série, ça. L'amour du risque. Jonathan et Jennifer, les aventuriers milliardaires. Non, un truc comme ça. Je crois que j'ai inventé des paroles. L'Opinion, qui est un journal libéral, journal très proche des entreprises. Des grosses entreprises, diraient les mauvaises langues, mais c'est plus compliqué que ça, nous propose deux choses intéressantes. D'abord, l'opinion qui dit arrêtez, arrêtez, notamment Oxfam, arrêtez avec les salaires des grands patrons là. Oui, ça gagne X fois plus que les salariés, que les ouvriers, mais enfin arrêtez avec ce procès. Donc pourquoi l'opinion prend la défense un peu des chefs d'entreprise, notamment des gros chefs d'entreprise, le salaire des PDG, le faux scandale, oui, c'est un regard, voilà, c'est le regard de l'opinion sur ces sujets-là, c'est important de le voir aussi. Et puis il y a des annonces intéressantes, on verra si elles sont suivies des faits, du gouvernement, précisément du ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, qui annonce une nouvelle baisse d'impôts pour les classes moyennes. Alors que ce n'était pas dans le programme de campagne du deuxième mandat de président Macron, c'est un peu une surprise. Alors c'est pas dans le programme, pourquoi? Parce que des baisses d'impôts, il y en a déjà eu pendant le premier quinquennat, et que les caisses sont un petit peu vides, et des baisses d'impôts non financées par ailleurs, eh ben, ça veut dire des dépenses et pas de rentrées. Hein. Et donc c'est assez intéressant et c'est assez étonnant. On verra si c'est suivi des faits ou pas. Hop. Ça c'est l'opinion, c'est assez intéressant ce matin. Les échos. Le quotidien, le grand quotidien économique de référence, un grand dossier sur la voiture électrique, on en a pas mal parlé ces derniers jours. Il y a des bonnes nouvelles dans l'actualité. Il y a des bonnes nouvelles dans l'actualité parfois, donc je voulais mettre de côté quand même, parce que ça fait du bien. Par exemple, le gouvernement a décidé de demander aux chaînes de restauration rapide, de fast-food, eh bien d'arrêter avec la vaisselle jetable au nom de l'écologie et d'utiliser de la vaisselle voilà, qu'on peut réutiliser, notamment en plastique. Eh bien quoi? Eh bien quoi? Eh bien ça marche. Voilà. La quasi-totalité des enseignes de restauration rapide seront en conformité fin mai avec la législation, voilà. Qui interdit la vaisselle jetable depuis le 1er janvier. Et il y a même des amendes qui commencent à tomber pour un ou deux mauvais élèves. Qui sont les mauvais élèves de ce truc? Eh bien, on verra ça. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Si vous êtes allé chez McDo récemment, pour pas citer de marque, vous avez vu que souvent dans les McDo, maintenant, c'est pour les frites, c'est un truc en plastique, etc. Hein? Voilà. Bêta version Marion. Voilà, j'ai envie d'un McFlurry maintenant. Ne te plains pas. Moi, j'ai envie d'un McFlurry tout le temps. Donc, hein. Ouais. Mais du coup, ils se font voler leur vaisselle, dit Molia. C'est vrai que le problème, c'est qu'il faut sensibiliser les clients parce qu'il y a pas mal de clients qui repartent du coup avec des trucs non jetables comme ça. Genre, il y avait un journaliste qui avait interrogé des gens comme ça qui partaient avec des trucs de frites en plastique là. Mais pourquoi mais pourquoi? Et ah bah ça va me faire un souvenir. Ok. Adri Maslia, merci pour le troisième mois d'abonnement. Je vous gâte. Fougate. Hein. Il y a deux journaux en France qui parlent un peu plus que les autres de tout ce qui est culture numérique et notamment du jeu vidéo. Ces deux journaux sont Le Figaro et sont Les Échos, ici, bon, l'équipe aussi avec l'aspect e-sport et notamment les papiers de Paul Arrivé. Et là, vous avez une pleine page sur le nouvel âge d'or du jeu vidéo japonais. C'est beau, hein? Hein? Lisez Les Échos. Ouais, c'est vraiment. Alors, bon, c'est sous l'angle économique souvent, mais c'est plutôt intéressant, quoi. Donc, on lira ça. Vous avez vu Le Parisien, en général, je mets Le Parisien très très tôt. Et en fait, ben, Le Parisien, je l'ai mis à la fin aujourd'hui parce que ça arrive. J'ai pas trouvé 1000 articles passionnants dans Le Parisien de ce matin. Donc, je l'ai mis. Alors, il y a un dossier sur les caches-tétons. Bon, j'avoue que. Connaissant certains petits malins du chat, même si c'est une réflexion plutôt sur le féminisme et la liberté des femmes par rapport à leur corps et à l'image de la femme, il y avait un vrai sujet intéressant là-dessus. Parce que, bon, en gros, c'est de plus en plus de femmes ne portent pas de soutien-gorge, mais du coup, bon, mettre des caches-tétons pour bon, bref, plein de raisons. Et donc, bon, je me méfie un petit peu de ce sujet. Alors, il y a. Ah bah voilà, c'est marrant parce qu'il y a mon ami que j'ai ban provisoirement pour quelques minutes tout à l'heure qui continue à être vraiment dans la proposition dans le débat internet. On s'en fout surtout. Non, en vrai, il y a un vrai débat voilà, sur l'image de la femme, sur la liberté de la femme. Donc, c'est un sujet qui peut être assez profond. Le problème, c'est que je me méfie. Voilà. Si j'annonce un débat sur les caches tétons, j'ai peur que certains voilà, partent sur d'autres aspects. Donc, je ne vous l'ai pas mis de côté. Vous le lirez, c'est dans Le Parisien. En vrai, il y a une lecture assez intelligente du sujet. Le Parisien est plutôt pas mal, quoi. Mais Go Bandef, non, on lui donne une chance. Il va y arriver. Il va y arriver. Par contre, je vous parlerai un petit peu des casserolades qui accompagnent quasiment les déplacements de tous les ministres, de cette nouvelle stratégie du président Macron qui est de multiplier les déplacements sur le terrain. On verra pourquoi. Et puis une petite blagounette. Donc, vous feuilletez ce matin Le Parisien, d'accord, ok. Mbappé peut-il être privé d'une cinquième couronne de meilleur buteur? Bon, ok. Donc ça c'est page 18, d'accord? Donc page 19, Chilavert, un triste flop à la présidentielle paraguayenne, ok, très bien. Et puis je tourne la page et là on arrive page 20. Mbappé peut-il être privé d'une cinquième couronne de meilleur buteur?
Quoi?
Oh bah je suis très fatigué, j'ai l'impression que j'ai déjà lu page 18 ce même article. Ah bah oui. Bah vous relisez pas votre journal, Le Parisien? Avant de l'imprimer ou de l'envoyer sur les iPads des gens? C'est drôle. Bon, ça fait. Je pense que ça fait 30 ans que je lis le journal et c'est la première fois que je vois ça en fait. C'est drôle. Et si, alors je me suis dit, bon, ben, c'est une erreur de. C'est un bug dans la matrice. Hein, quelqu'un n'a pas pris la bonne pilule. Et puis non, c'est bien. Page 18, vous avez un article. Et voilà. Et page 20, vous avez le même. Voilà. Voilà. Ah, ils adorent Mbappé, c'est pour ça. Voilà. C'est drôle. Alors, version imprimée, est-ce qu'il y a le même souci? Peut-être, je sais pas. Bon, c'est drôle, c'est drôle. Et puis l'horoscope, bien sûr, du Parisien, puisque c'est notre petit plaisir à nous, ça nous permet de dire plein de dingueries. Voilà, c'est pas mal, hein? C'est pas mal, vous en pensez quoi? Joli menu. On va pas trop traîner parce que je vous abandonne dans 2 heures. Voilà. Est-ce que le numéro de page change? Oui, c'est page 18 et page 20. Un petit tweet au Parisien, non, on va le laisser tranquille, les pauvres, les pauvres. Pauvres. Oui, il y a même GCTF, j'ai vu sur l'article d'hier sur la mort, j'ai vu, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Si j'ai le temps, je vous le lirai. Mais vous savez, je vois l'essentiel des messages, c'est pas la peine de le mettre 10 fois un message. Sachez que si vous l'avez écrit une fois ou deux et que j'ai pas réagi, c'est que je l'ai vu. Mais que je mets ça de côté, vous voyez, quoi. C'est pas la peine de le dire 10 fois. Donc, gars, merci pour le prime. Quelle est la coquille dans Le Parisien? Pas suivi? Bon, c'est pas une coquille, c'est. Ils ont mis 2 fois le même article sur 2 pages différentes. C'est drôle. Bon, on y va, on va bosser, hein. Oui, alors ça, Vakine, est-ce qu'on va parler du rapport Oxfam sur la rémunération des grands patrons? Oui, mais côté colère de l'opinion qui dit, oh là là, arrêtez, ces pauvres grands patrons, vraiment, on n'arrête pas de leur taper dessus. C'est vraiment quelle démagogie. Du coup, on parlera de ce rapport, mais avec un regard très critique. Voilà. Après, vous ferez votre idée, quoi. Ouais. Ticlem écrit Samuel, s'il te plaît, ne lis pas ce message. Trop tard. Thomas, merci. petite pensée à l'article qui n'a pas été publié. Peut-être que du coup, ça a supprimé, remplacé un autre article. Voilà. Bon, on va y aller, hein. On est prêt. Elle est bien, nouvelle caméra? Est-ce que c'est une belle image ou pas? Vous êtes content ou pas? Je vais juste la baisser un petit peu pour qu'elle soit plus comme ça, pour qu'on ait peut-être un petit peu moins les pieds des tables là, et les fils qui se baladent là, de ce côté, voilà. Quoique l'amorce de la table, c'est joli en fait. C'est pas mal l'amorce de la table en fait. Avant, vous ne voyez pas la table là. C'est peut-être pas mal en vrai. C'est joli l'amorce de la table. Vous en pensez quoi? D'avoir l'amorce de la table. C'est bien, hein? On garde ça peut-être. Juste enlever le fil là. Ça, je vais le mettre ailleurs. Avec moi, les problèmes, c'est vite réglé. Hein. Hop, hop, on est. Oh là là. C'est presque trop. Là, on garde ça. Hein. C'est bien cadré. Oh, elle est bien cette nouvelle caméra. Je vous ai montré un truc ou pas? Hop. Hop, il fait le point sur les doigts. Hop. Il fait le point sur moi. Hop. Il fait le point sur les doigts. Hop. Je vous ai pas montré ça. C'est fou, non? C'est incroyable. Hop. Allez, vas-y. Là, c'est bon. Allez, et hop. Tac. T'es fou, hein? C'est incroyable. J'adore. Il y a quelqu'un qui a vomi. C'est Yo-Yo Man qui a vomi. Donc n'oubliez pas de prendre votre petit bol à vomi le matin désormais. Comment ça s'appelle? L'autofocus? Ah, c'est comme ça qu'on dit. J'adore, j'adore. Tac. J'adore. J'adore. J'avoue que ça fout la gerbe ton truc. Ouais, c'est vrai. Non, on va pas faire ça pendant 30 minutes. On va faire ça. C'est reparti maintenant pour la revue de presse. Tiens, je vais remonter un petit peu cette caméra pour que vous soyez plus présents. Voilà, c'est encore mieux. C'est bon. Let's go. Je ne vous donne pas la référence de la caméra. Je l'ai payée plein pot. Si la marque me l'avait offert, voilà, eh bien, je vous l'aurais donné, bien sûr. Mais ça va pas, non? Je vais pas leur faire de la pub alors que j'ai payé plein pot, non? Eh oh, merci Donga pour le Prime. Tiens, ça va m'aider à la payer justement. Hein? Allez, let's go. Libération, donc avec une interview de la nouvelle numéro 1 de la CGT, Sophie Binet, le pouvoir s'est radicalisé, ce qui va nous permettre d'avoir ce débat d'ailleurs. Est-ce que nous sommes en France dans une démocratie libérale, I2L, libérale, ou pas? C'est parti. Sophie Binet, si on perd par la porte, on gagne par la fenêtre. De quoi s'agit-il? Vous l'avez compris, bien sûr, de la réforme des retraites, bon, bah, qui est passé par 49.3, voilà, qui a été comment dire, le président Macron l'a tracé 40 ans de, bon, j'exagère, 35 ans de passion pour le droit constitutionnel, et là, il l'a promulgué, de Dieu, il l'a promulgué après la validation par le Conseil constitutionnel, donc ce truc va s'appliquer, voilà. Et pourtant, vous avez une partie des opposants, comme Sophie Binet, à cette réforme qui disent c'est pas perdu. Si on perd par la porte, on gagne par la fenêtre. Ça va être intéressant de comprendre ça, quoi. Ah, c'est intéressant, il y a Gwenor qui dit pourquoi elle refuse de répondre à CNews, je ne comprends pas pourquoi. En fait, Sophie Binet, récemment, elle s'est fait interroger dans un cortège par une journaliste, je crois que c'était une femme, de CNews, vous savez, la chaîne d'info de Bolloré. Et donc, elle commence à répondre à la question, puis elle voit le micro CNews, elle dit: Ah non, CNews, je ne parle pas à CNews. Et les gens ont été un peu surpris. Bon, en fait, et après, elle a expliqué: Je ne vais pas sur les plateaux de CNews, parce que je ne valide pas cette ligne éditoriale, bon, qui est un peu particulière, qui donne, on va dire, la parole plus à certaines idées qu'à d'autres. Et donc, Sophie Binet dit: Je ne vais pas, je ne cautionne pas cette ligne, je ne vais pas sur le plateau. Et après, elle dit: Comme je ne vais pas sur les plateaux, eh bien, je ne parle pas non plus. Aux journalistes de cette chaîne. Bon, ben, on pense qu'on en veut. Thomas dit, c'est par conviction. Voilà. Bon, ça, vous faites votre avis là-dessus, mais en tout cas, c'est sa position, et elle est extrêmement claire. Alors, pourquoi elle pense que c'est pas terminé, hein, ce combat contre la réforme des retraites? On a une perspective très intéressante avec le 8 juin, dit-elle, notamment. Le 8 juin, l'examen d'une proposition de loi d'initiative parlementaire, hein, du groupe Liotte, pour ceux qui ont la ref. Donc, on a le 8 juin, l'examen d'une proposition de loi. Proposition, c'est quand ça vient de l'Assemblée. Projet, c'est quand ça vient du gouvernement, qui propose d'abroger le report de l'âge légal de départ à la retraite. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais c'est très intéressant. Et donc Sophie Binet, elle appelle tous les députés à prendre leurs responsabilités, je cite, « s'ils ont refusé de voter contre la réforme des retraites, ils doivent voter cette loi d'abrogation, ce serait un véritable coup de tonnerre. » Tu m'étonnes. Donc je vous redonne les infos pour ceux qui ne l'avaient pas. Vous avez dans quelques jours, là, une proposition de loi qui propose d'annuler l'élément essentiel de cette réforme des retraites, le passage de 62 à 64 ans pour le départ légal de la retraite. Bon, ce qui est intéressant, c'est que pour qu'elle passe, cette proposition de loi, elle n'a pas besoin d'une majorité absolue. Elle a besoin d'une majorité relative. Donc s'il y a ce jour-là suffisamment de députés pour voter cette proposition de loi, on va dire alliance de tous les gens qui se sont opposés à cette réforme, la loi, elle passe. Ouais. Alors après, attention, c'est pas fini. Après, ça passe au Sénat. Le Sénat, il n'est pas sûr que cette loi soit votée par le Sénat. Puis après, il y a commission mixte paritaire. Ça revient, mais ça revient à l'Assemblée. Donc il y a une navette parlementaire, plutôt pas une commission mixte paritaire, une navette parlementaire. Donc ce n'est pas parce que ce serait voté par l'Assemblée que ça irait au bout. Mais c'est quand même extrêmement intéressant. Donc Sophie Binet parle de ça. Il y a Maxence Decaux qui dit un long travail de Liotte. Je suis fier de mes amis députés et assistants parlementaires. En tout cas, c'est un joli coup de la part de ce groupe parlementaire, c'est vrai. Donc, on va se pencher sur ça. Puis Libération relance. Mais vous n'évoquez pas la décision du Conseil constitutionnel attendue le 3 mai, donc c'est avant, sur la deuxième demande de RIP, un référendum d'initiative partagée. Vous pensez qu'il y a peu d'espoir ? Donc, vous savez, le RIP, en fait, c'est donc il faut une demande d'un certain nombre de parlementaires de référendum d'initiative partagée avant que ça parte vers la pétition que doivent signer pas loin de 5 millions de Français pour que ce truc ait une chance de devenir un référendum. Donc sur la réforme des retraites, il faut que ce soit validé par le Conseil constitutionnel. Voilà. Donc effectivement, il y a une première demande qui n'a pas été validée par le Conseil constitutionnel, il y en a une deuxième, et le Conseil constitutionnel rendra sa décision le 3 mai. Elle n'en parle pas. Alors Libération dit « Pourquoi vous n'en parlez pas ? Vous n'y croyez pas ?» Elle dit « Non, pas du tout. J'espère que le Conseil jouera son rôle de sagesse en validant ce RIP, hein, sachant quand même que le RIP a été rédigé pour que ne quasiment jamais marcher. » Vous avez dans l'histoire constitutionnelle française, même si ce RIP n'est possible que depuis quelques années, c'est vrai que jamais la procédure est arrivée à son terme, notamment, mais pas seulement, parce qu'il faut 10% du corps électoral, c'est-à-dire un petit peu moins de 5 millions de signatures. Donc, elle n'y croit pas trop, hein. Elle n'y croit pas trop. C'est du coup, c'est RIP, RIP, quoi. Rest in peace, aussi, quoi. Vous disiez début avril que le président ne pourrait plus gouverner s'il ne retirait pas la réforme. Pour vous, est-ce que les deux dernières semaines le prouvent ? Ah, intéressant ça. Elle dit, quand on ne peut plus sortir de son bureau, sauf à prendre des arrêtés qui remettent gravement en cause la liberté publique avec, par exemple, des interdictions de circuler dans des périmètres de plus en plus larges autour des présidents, du président et des ministres, et qu'on en vient à interdire les dispositifs sonores portatifs, les fameuses casseroles, bien sûr, si c'était une blague dans un film, on en rigolerait, mais c'est grave pour les libertés d'en arriver là, ça montre un pouvoir aux abois. Donc, Sophie Binet estime que ce qui se passe depuis deux semaines montre effectivement que c'est quand même très compliqué pour le président et son gouvernement de gouverner. C'est exactement la question que je vais poser ce soir à mes invités, parce que je trouve que c'est une question qui est importante. Voilà. Pas mal cette interview, hein ? Je vous lis un petit peu, puis on enchaîne avec la sécheresse. Et après, on reviendra sur ce débat de savoir si la France est une démocratie ou une dictature, ou une démocratie illibérale, avec un débat entre deux personnes dans Libération, et c'est vraiment passionnant. Oui, maintenant, j'ai vu qu'il y avait une appli sur le téléphone pour faire le bruit de la casserole. Tu as tout à fait raison, Thomas. Potemkin est un peu colère et dit « Je trouve que c'est bizarre de lire cet entretien comme si elle présentait des choses factuelles alors qu'elle est à 99,99% pour vendre sa ligne. Sophie Binet est la numéro 1 de la CGT, donc elle est engagée. Elle a un regard particulier avec des valeurs qui sont les siennes sur l'actualité. Mais là, 100% de ce qu'on a évoqué, c'est du factuel. Elle parle de quoi ? Elle parle de la proposition de loi de la Liotte qui arrive là. Ça, c'est purement factuel. Il y a un monde où cette loi peut être votée. Elle parle du RIP, En disant, j'y crois pas trop. 100% factuel. Alors pour le coup, on n'est pas du tout dans le subjectif, là, c'est purement objectif. Et après, elle dit qu'effectivement, le gouvernement est un petit peu gêné aux entournures, un petit peu empêché de gouverner avec la mobilisation dans la rue, notamment les casseroles, où elle n'a pas complètement tort. Pas complètement tort. Donc elle est très engagée, mais pour le coup, là, ce qu'elle dit dans l'interview, ça n'est pas 99,99%, comme tu le dis, pour Vance, c'est plutôt objectif, je trouve. Tout ce qu'elle dit, là, quelqu'un de droite pourrait le dire aussi, en fait. Voilà. Voilà. En n'espérant pas la même issue à tous ces sujets, le RIP, la proposition de loi de Liotte ou les casseroles dans la rue, mais c'est juste du constat, là, pour le coup. Alors, Nightwatch. Je serais curieux de savoir si Samuel pourrait expliquer au chat comment fonctionne notre système de retraite actuel et comme le prochain fonctionnera pour voir si le chat est apte à pouvoir discuter et débattre de la réforme pour recontextualiser. Nightwatch, je pense que tu n'es pas là depuis très longtemps. Notamment quand tu dis pour voir si le chat est apte à pouvoir discuter et à débattre de la réforme, je peux te dire que ce chat-là est apte à le faire. Et puis ce débat, ça fait 4 mois, celui que tu viens d'évoquer là, présenter le système de retraite actuel par répartition, son histoire, est-ce qu'il va devenir, ça fait 4 mois qu'on en parle tous les jours, quasiment à tous les streams. Je ne vais pas le refaire aujourd'hui, je pense que tu n'es pas là depuis beaucoup de temps. Les replays sont pour toi, mais par contre, je peux te dire que le chat est très, comment dire, pour reprendre tes mots, très apte à pouvoir discuter de tous ces sujets. Certains connaissent ce sujet encore mieux que moi. Je vous lis, je vous lis, je vous lis. C'est trop mignon parce que y a plein de nouveaux viewers, il y a Bloom lui-même. Qui est là depuis pas longtemps, qui a écrit 3 messages depuis le 14 mars, qui dit notamment le 27, c'était hier, bonjour, je découvre votre chaîne, vous êtes un nouveau streamer. Alors Bloom, j'ai pas vu ton message hier, mais non, ça fait 2 ans et demi qu'on est là presque tous les jours. Et donc, mais c'est bien. Et Bloom, aujourd'hui, à 10h29, qui dit est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit? Alors le problème, c'est que ça va un petit peu vite parce qu'on est beaucoup entre passionnés d'actu ici. Et donc, du coup, il y a plein de refs qu'on n'explique pas parce que. On est assez tous branchés sur l'actualité, notamment l'actualité politique. Donc, à force de discuter ensemble, on ne respecte pas tout tous les jours, sinon, en fait, on n'arriverait jamais à parler de ce qui est nouveau. Mais bienvenue en tout cas. Bienvenue. Alors, sache qu'il y a finalement, c'est un peu la même question. Est-ce que le chat est apte à débattre de tous ces sujets? Sache que pour la plupart des gens ici, tous ces mots que j'utilise sont assez compréhensibles. Voilà. Et par contre, je suis très, très OK pour répondre aux questions. Par contre, je ne vais pas réexpliquer tous les mots qu'on vient d'utiliser parce que c'est pareil, on ne va pas y arriver, quoi. Mais merci de ton arrivée, en tout cas. C'est bien qu'il y ait des nouvelles, c'est cool. Mais du coup, parfois, c'est un peu déstabilisant parce qu'on ne réexplique pas tout à chaque fois, quoi. Je vous lis, puis on parle de sécheresse. C'est trop mignon parce qu'il y a Chaton Pacifiste qui me regarde depuis 2 ans et qui dit rien compris depuis 2 ans. Alors, parlons de sécheresse et revenons à ce débat. Pourquoi? Parce que c'est super important et que c'est Libération qui est le plus complet là-dessus ce matin. Le show dans l'inconnu. Libération, c'est les patrons du jeu de mots, du meilleur titre. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas la rêve, ce n'est pas le saut dans l'inconnu hein, avec le réchauffement climatique, c'est le saut dans l'inconnu. Excellent, moi je dis excellent. Pourquoi on en parle? Parce que le ministère de la Transition écologique a ouvert hier, jeudi, son comité d'anticipation du manque d'eau. Ça c'est nouveau, je crois que c'était sa deuxième réunion. Voilà. En France, il y a un comité d'anticipation du manque d'eau. Pourquoi? Parce que la sécheresse devient un sujet qui est vraiment problématique. La crise menace à court terme, notamment l'arc méditerranéen, vous voyez tout en bas à droite là, très rouge, et pour cet été, le bassin de la Seine et celui du Rhône aussi. Lisons l'article, parce que c'est vachement intéressant. Pop, 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 je zoome un petit peu, c'est parti. Environ 70 personnes ont donc participé pour la deuxième fois de l'année au comité d'anticipation et de suivi hydrologique, réunion convoquée pour suivre la situation à l'échelle nationale. La période hivernale n'a pas permis de recharger les nappes, hein, les nappes phréatiques. Merci VirtualGo pour le message. Lance la secrétaire d'État chargée de l'écologie, Bérangère Couillard. Dans une partie de l'Hexagone, il n'est déjà plus question d'anticiper une sécheresse. Nombre de territoires sont déjà dans le rouge. On est quand même sur une situation inquiétante. Grâce à des pluies au début du printemps, les sols de la moitié nord ont pu retrouver une humidité proche. Je le savais. Vous savez, je suis passé très très vite sur le nom de la secrétaire d'État chargée de l'écologie, Bérangère, hein, et je savais que même en passant vite, dans le chat, ça rigolerait. Eh ben oui, c'est son nom. Ben ouais, elle s'appelle Couillard. Et alors ? Vous croyez qu'elle a... Qu'elle ou son mari, c'est peut-être son nom d'épouse, n'a pas pris assez cher à l'école ? Hein ? Alors s'il vous plaît, moi je voudrais avoir une pensée émue pour la personne qui a porté ce nom enfant, que ce soit la ministre ou son époux, je ne sais pas, voilà, qui a dû prendre très 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 cher à l'école. Voilà. Donc, pensée émue pour cet écolier ou cette écolière, vous imaginez, hein. Et justement, eh ben, on va passer très très vite là-dessus. Voilà. Oui, c'est Madame Couillard, et alors ? Voilà. Donc, côté nappe phréatique, la situation est beaucoup plus inquiétante que l'an dernier. À la même époque, en mars, les trois quarts des stocks affichaient des niveaux inférieurs au normal. Ça, c'est plus important que la question du patronyme de la ministre qu'on a évoquée à l'instant. L'heure du partage de l'eau a déjà sonné. Ah, ça, c'est un sujet. Le monde de l'agriculture essaie de savoir la part qui va lui revenir, notamment dans le sud. Bah, il y a pénurie d'eau, savoir qu'on va devoir décider qui peut utiliser de l'eau, en quelle quantité. Forcément, les agriculteurs sont extrêmement inquiets. C'est Luc Servant, représentant des chambres d'agriculture notamment, qui s'inquiète. Face à la menace donc d'une guerre de l'eau, hein, non, tu ne remplis pas ta piscine, non, tu n'arroses pas ton champ, non, tu ne laves pas ta voiture. Si je veux, je veux arroser mon champ, si je veux remplir ma piscine. Vous voyez, la guerre de l'eau, la guerre de l'eau. Face à la menace d'une guerre de l'eau, Christophe Béchu, donc notre ministre, veut croire au dialogue et un partage équitable de l'eau. Ça, c'est passionnant. Voilà. Donc ça, voilà pour le petit point. On n'a pas eu assez de pluie cet hiver. Le niveau des nappes phréatiques est un niveau extrêmement bas, extrêmement inquiétant. C'est chaud dans le sud-est. C'est chaud dans le Rhône. C'est chaud aussi dans le bassin parisien. Voilà. Et ça, c'est l'une des conséquences du réchauffement climatique. Voilà. Non, tu ne fais pas ta méga-vaccine. De Starfleet, exactement, un débat qu'on a déjà évoqué ici beaucoup. Merci Chuck Noob pour le deuxième mois, Charlotte Jolia pour le 20e mois. Je crois que Donga, je t'ai remercié déjà tout à l'heure. Oui, Jean-Claude Vandamme avait raison. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Qui me dit ça ? Qui me dit ça ? Voilà, ça c'est du commentaire de pertinence, c'est Soul92i, donc JCVD sur l'eau. Pour ceux qui n'ont pas la ref, on va aller voir ce que Jean-Claude Vandamme disait. De l'eau. Il y a longtemps, c'était en... Je crois que c'était en 2011.
Sans ma femme, mes enfants, ma mère.
Je vous mets la vidéo de Jean-Claude Vandamme. Je vérifie juste qu'il n'y a pas de dinguerie. Jean-Claude Vandamme en 2011, d'après les infos que j'ai là. Vous avez la ref ou pas ? Jean-Claude Vandamme, qui disait l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
Sans ma femme, mes enfants, ma mère, j'aurais jamais réussi. Jamais, 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 jamais. Jamais. Il faut vivre la vie au jour le jour, à la seconde. À la seconde. Alors on apprécie les détails, les trucs comme ça. Bon, parfois on se pète la gueule. Hein. Mais ça vaut le coup. Cette salle où je m'entraîne, moi j'habite à la mer du Nord. Parce que j'adore mes chiens, comme on dit, parce que là, je mélange mes pensées, mais je reviens toujours à ce que j'ai pensé, excusez-moi. Bon, même découpé, tu peux le mettre en ordre. Même découpé, tu peux... Bon, okay. La mer du Nord, pour moi, quand j'étais jeune, j'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
Jean-Claude Vandamme. C'était pas en 2011, hein. Je pense que c'était encore plus ancien, quoi. J'adore l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Je remets la séquence parce qu'il est formidable. C'est Jean-Claude Vandamme, bien sûr, il est formidable.
La mer du Nord, pour moi, quand j'étais jeune, j'adore l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
grand, ça. Hein? Grand. Voilà. C'est un personnage où il est comme ça de base. Tu ne connais pas Jean-Claude Van Damme? Qui me dit ça? Cripsman? Tu ne connais pas Jean-Claude Van Damme? Jean-Claude Van Damme? Jean-Claude Van Damme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des plus grands acteurs que le monde ait connu. C'est aussi un des plus grands philosophes. Sa pensée, sa métaphysique, notamment du dauphin ou de la baleine, je ne sais plus. Dauphin ou baleine? Je sais plus. Avec les ondes, je ne sais plus. C'est dauphin ou baleine? Vous savez. Dites-moi. C'est les dauphins. Hein. C'est Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, c'est ses grands rôles, ses aphorismes. Voilà. C'est un gars qui est capable de te mettre une balayette dans la tête, hein, de te dégommer le pif avec un high kick et de te finir à coup de coude. Et en même temps te parler de Nietzsche, de Schopenhauer. Et tout ça dans le désordre. Donc c'est un grand homme. Vous ne connaissez pas? Ah, si, Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bêtises. J'ai tout cassé, comme d'habitude. Alors, Jean-Claude Van Damme, on va essayer de trouver. Est-ce qu'on aurait d'autres vidéos à vous montrer? Une espèce de medley, peut-être? Je peux vous mettre un petit medley, peut-être? Hein, best-of, un espèce de... Si on trouvait, par exemple, un best-of... de Jean-Claude Van Damme, ça pourrait être pas mal, ça. Jean-Claude Van Damme best-of. C'est marrant, ça, certains... Alors, il y a des jeunes dans le chat, des gens qui n'ont pas nos âges canoniques, hein, les vieux qui nous regardent, là. Les moments cultes, bah, j'ai trouvé les moments cultes de Jean-Claude Van Damme.
1 plus 1 égale.
Oh, ouais, bon, on va se régaler, là. Voilà. Je ne sais pas si on est au bout de cette revue de presse, mais on va regarder Jean-Claude Van Damme, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est obligé. Hein. Ça, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Hein.
1 plus 1 égale. 2.
Non. 1. Ah. Ah. On parle une, ou un, on est ensemble.
Justement, ça implique qu'un plus un égale un, c'est toujours vous.
C'est l'amour.
Deux en un.
Mais dans notre monde à nous, un plus un égale deux, deux ouais. Plus deux égale quatre, comme ça on devient selfish, on prend du pognon et on partage pas. Mais c'est un plus un égale un, ou peut-être que un plus un égale onze. Et ça c'est beau.
Mmh. 13 pour moi, ça représente 13. 1 plus 3, 4, tu peux le diviser, tu peux pas le diviser, tu peux le multiplier. Oui, tu peux le diviser, bien sûr. Tu peux le diviser 6,5, hein. C'est correct?
Oui, c'est correct.
Vivre la vie au jour le jour, à la seconde. À la seconde. Alors on apprécie les détails, les trucs comme ça.
Bon, ça, c'est lourd.
On se pète la gueule. Hein. Ah, merde.
Ça, c'est lourd,
le mettre en ordre. Moi, quand
les gens vont parler avec.
Non, pas
en 3000,
ça.
Les gens vont parler avec des yeux, avec des ondes. C'est pas pour un fou, il y a des gens, les baleines le font. Les baleines le font et...
C'était pas les dauphins, c'était les baleines. Vous êtes trompés. Les baleines parlent avec les ondes.
Et les dauphins le font aussi. C'est des animaux
Pardon.
Très intelligents dans la mer.
Les deux, en fait. Donc, les dauphins qui sont des animaux très intelligents dans la mer, nous rappelle Jean-Claude.
Mer. Nous, on vit dans la terre. Et eux se communiquent, vu qu'ils ne savent pas parler dans l'eau, ils sont forcés d'utiliser des ondes de love ou de hate. Et la communication se fait comme ça.
La vie évolue, mon frère. Si les gens, tu as dit, quand je viens dans des émissions de TV, ça me fait toujours. Et c'est normal, mais ils veulent me savoir des choses parce qu'ils veulent parler et nourrir. Et, ok, mais un homme change. S'il ne change pas, c'est vraiment le con des cons. Et j'ai pas changé pendant des années. Tu te répètes. Les gens se répètent. On se répète toujours. C'est pour ça qu'on fait des erreurs et c'est pour ça qu'il y a des trahisons.
L'histoire qu'il y a eu avec.
Unaware. Je suis méfiant. I'm aware de la méfiance. Et la méfiance, elle est méfiante.
Aware de la méfiance. Ah, attention, ça devient compliqué. Là.
Non, c'est-à-dire que je mets en jeu. Pour toi, de comprendre ce qui se passe. Que là...
Bon, vous irez, pour ceux qui ne connaissent pas, vous irez voir. Pour moi, c'est un des grands génies incompris. En vrai, on rigole. Mais quand on réfléchit bien, en fait, il dit plein de choses extrêmement sensées. Hein, quand il dit qu'on n'aura plus d'eau dans 20-30 ans, c'est Jean-Claude Van Damme. Quoi. Voilà, moi je dis bravo à ce monsieur. Maintenant, toujours dans Libération, ce débat, est-ce qu'en France, on vit dans une démocratie? Est-ce qu'on vit dans une dictature? Est-ce qu'on vit dans une démocratie illibérale? On va aller voir d'ailleurs ce que c'est une démocratie illibérale, même si l'article en parle. Parce que c'est un concept qui a un certain succès illibéral depuis quelques années. Voilà. Mais qui n'est pas encore très répandu. Alors, j'ai trouvé tout un article. Tiens, il y a une page dans Wikipédia d'ailleurs. Ici. Alors, démocratie illibérale ou illibéralisme. Une situation démocratique où néanmoins il y a des choses qui ne vont pas. L'indépendance de la justice est malmenée, les citoyens ne bénéficient pas d'un traitement égalitaire face à la loi, de protection suffisante face à l'État ou à des acteurs privés. Voilà. Dans la démocratie illibérale, il y a des élections. Voilà, donc ça c'est un des critères essentiels, on va dire le premier critère peut-être de démocratie, le pouvoir est au peuple, démocratie, hein, kratos, démos, le pouvoir est au peuple. Donc ce critère est respecté dans une démocratie, mais c'est une démocratie où d'autres aspects, il y a Ranick qui nous rappelle les quatre piliers de la démocratie, l'état de droit, les contre-pouvoirs, l'engagement citoyen et le suffrage universel. Le suffrage universel est respecté dans une démocratie illibérale, mais il y a des soucis, des questions au niveau de l'état de droit, des contre-pouvoirs et de l'engagement citoyen. Voilà. Ranick, merci beaucoup. C'est une excellente définition que tu viens de nous donner. Alors, je reviens à l'article maintenant qu'on sait que c'est ce qu'est une démocratie illibérale. Je remercie avant le Roi des Cailloux pour le Prime, lui Studio pour le 8e mois et c'est vous pour le 20e mois d'abonnement. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, dans Libération, il y a un débat intéressant entre deux personnes qui ne sont absolument pas d'accord. Vous avez une dame qui est spécialiste en droit public, qui s'appelle Eugénie Mériot, qui dit « on est dans une démocratie illibérale, en France, ça ne va pas ». Et on a Marc Lazare, historien, qui dit « mais pas du tout, pas du tout, pas du tout ». Alors débat, lisons les deux aspects, et après quoi? Vous faites votre avis, c'est toujours l'idée ici. Hein. Les recours à l'état d'urgence ont fait basculer notre pays dans... le camp autoritaire, carrément, nous dit donc Eugénie Mériot, qui est maîtresse de conférence en droit public. Restriction de la liberté de manifester. Proximité de la justice avec l'exécutif. Multiples rappels à l'ordre par l'Europe ou l'ONU. Les grands principes, définition et démocratie illibérale peuvent, bel et bien, s'appliquer au modèle français. La démocratie illibérale a été définie par un journaliste américain, Farid Zakaria, nous rappelle Eugénie Mériot, dans un article de 1997, vous voyez le concept n'est pas très 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 vieux, sur la montée en puissance d'un nouveau modèle de démocratie. Alors ça ne s'appelle pas illibéral E, comme e-sport, hein, c'est I2L, illibéral. Si le principe de l'élection des gouvernants est aujourd'hui largement admis et plutôt peu contesté, la diffusion globale depuis le 11 septembre 2001 du paradigme de l'état d'urgence dans la démocratie a engagé une dynamique globale de remise en cause des droits et libertés. Là, je pense à la personne qui tout à l'heure disait « mais quelqu'un comprend ce qu'il dit ?» Je pense que la personne doit vraiment s'arracher les cheveux. En France, le recours à l'état d'urgence depuis les années 2000 et plus encore depuis 2015 a peu à peu fait basculer notre pays dans une démocratie illibérale. En 2021, la France a été rétrogradée dans le classement, par exemple, de The Economist, qui est un excellent journal britannique, passant du statut de full democracy à celui de flawed democracy, démocratie imparfaite. La réponse gouvernementale donnée aux manifestations des Gilets jaunes 2018-2019, ainsi que la gestion de la crise sanitaire 2020-2021, ont accéléré ce basculement. Le gouvernement d'Emmanuel Macron, dit-elle, a été rappelé alors dans le cadre de plusieurs procédures spéciales des Nations Unies, par le Haut-Commissaire aux droits humains des Nations Unies, mais aussi le Conseil de l'Europe. En démocratie illibérale, l'exécutif, se prévalant de sa légitimité tirée de l'élection au suffrage universel, si vous suivez l'actualité politique, ça va vous rappeler des choses, restreint l'exercice des libertés publiques, diabolise, voire criminalise toute forme de contre-pouvoir, répondent à cette définition des États aussi divers que la Hongrie, certains en parlaient dans le chat, Singapour, Israël, la Thaïlande ou encore la Russie, nous dit Eugénie Mériot, qui met donc la France dans ce camp-là. On peut dégager deux grands caractères distinctifs. Tout d'abord, un cadre constitutionnel de séparation des pouvoirs dans lequel le gouvernement dispose de prérogatives importantes. Ça, c'est la constitution de la Ve République et sa pratique aussi. Où la justice manque d'indépendance, où l'opposition parlementaire manque de moyens pour contrôler l'action du gouvernement. Ensuite, un régime de liberté de type préventif associé à un contrôle de la société civile, c'est-à-dire dans lequel les libertés politiques, au premier rang desquelles les libertés d'association, de réunion, sont soumises à d'importantes restrictions juridiques ainsi qu'à un contrôle des modes de financement et d'action par lequel elles s'exercent. Après, elles développent au niveau de la liberté d'association, la liberté de manifestation en France. Donc voilà, ça va assez loin quand même, puisque Eugénie Mériot estime que la France est une démocratie illibérale au même titre que par exemple la Hongrie ou la Russie. Ça, c'est son analyse. Ce monsieur n'est pas du tout d'accord. C'est ça qui est intéressant, c'est l'opposition. The Wolf Unit, merci pour le troisième mois. C'est Marc Lazare qui est historien qui dit « Arrêtez, arrêtez, n'exagérez rien, n'exagérons pas. Les banderoles brandies dans les manifestations, écrit-il, les écrits de certains intellectuels et observateurs, les propos tenus sur les réseaux sociaux, érigent Emmanuel Macron en tyran, en despote. La France serait donc devenue un régime autoritaire, hein, ou selon une expression en vogue, une démocratie illibérale. » Lui n'est pas du tout d'accord avec cette analyse. Le combat politique se caractérise par ses excès. Alors, accuser Emmanuel Macron d'être un apprenti dictateur peut éventuellement être considéré de bonne guerre. Hein. On doute toutefois que cela compose une bonne politique. Au regard de l'histoire et des expériences présentes au cœur de l'Europe, cela n'a pas de sens. Il faut-il rappeler que l'opposition en France peut s'exprimer sans entrave au Parlement et ailleurs. Vrai. Elle ne se prive pas de le faire, et avec quelle virulence? Vous avez vu les débats à l'Assemblée ces dernières semaines. Ou encore que les médias jouissent d'une liberté totale, et que la plupart d'entre eux passent leur temps du matin au soir à s'en prendre au gouvernement. Pas faux. On aurait du mal à trouver un grand quotidien favorable au pouvoir. Ah, sur certains points, je pourrais vous citer quelques journaux qui récemment ont quand même soutenu la réforme des retraites. Mais ils ont le droit de le faire, ils ont le droit de le faire. Sans parler du déchaînement d'insultes et parfois de haine sur les réseaux sociaux. Critiquer la conception et la pratique des institutions de Macron, s'insurger contre sa verticalité excessive, s'indigner de certains de ses propos, s'élever contre la doctrine, la réalité du maintien de l'ordre, souhaiter réformer certains articles de la Constitution qui apparaissent déphasés, insupportables dans le contexte de défiance politique que connaît la France, œuvrer pour le renforcement des contre-pouvoirs, développer toutes les formes possibles et imaginables de démocratie participative sans remettre en cause la prééminence de la démocratie représentative, voire demander l'instauration d'une 6ème République est légitime. Donc, grande phrase, mais pour dire toutes ces expressions de défiance vis-à-vis du pouvoir et de l'organisation du pouvoir en France, bah, c'est, dans une démocratie, c'est bien. Il le dit. Ça relève pleinement du débat démocratique. En revanche, conclut-il, ce monsieur, qui s'appelle donc Marc Lazare, qui est historien, affirmait haut et fort qu'Emmanuel Macron prépare un 18 Brumaire, donc ça c'est Napoléon, hein, voir que d'ores et déjà la tyrannie règne en France s'avère infondée et dangereux. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit que c'est dangereux? Car, alors comment qualifier ce qui se passe par exemple en Hongrie ou en Pologne, hein, et que dirait-on si un jour Marine Le Pen arrivait au pouvoir? Voilà pour son analyse à lui. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez deux regards. Maintenant, on va regarder 4438 regards, c'est les vôtres. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que la France est une dictature? Est-ce que la France est une démocratie illibérale? Des Bezzo, ce soir, à propos de Eugénie Mériot, dit « Rien le fait qu'elle ait pu dire ça dans un journal sans crainte montre qu'on est dans une démocratie. » Fléau Lepreux nous met un peu en... nous alerte. Il n'y a pas seulement d'un côté les gentilles démocraties et de l'autre les méchantes dictatures. Il y a un entre-deux aussi. Et un basculement est vite arrivé. Il vaut peut-être mieux réagir avant. Armiger 18. Essayer de frapper dans les casseroles pour critiquer Poutine en Russie. Il ne faut pas exagérer. C'est vrai que le droit de manifestation en Russie... Je vous lis, hein, je suis en train de vous lire. C'est peut-être la 5ème République qui est illibérale, dit The Club Med. C'est une réflexion intéressante. La 5ème République qui existe depuis 1958, dans sa version avec élection du président au suffrage universel depuis 1962, pose question, est-ce que c'est encore le régime dont on a besoin? C'est un débat qui n'est pas tranché. Intéressant vos commentaires. Ceux qui disent que Macron est un dictateur n'ont jamais vécu une vraie dictature, dit Green Title. C'est dans Libération, cet article XGZU. Passer trois jours dans une dictature, vous comprenez vite le sens du mot, me dit Chevalier Creux. Voilà. Globalement, vous êtes plutôt, vous trouvez plutôt que le propos de Junie Mériot est un peu exagéré. Farmer Shiny Boy. Le fait qu'une fois élus, nos dirigeants ne sont pas renversables sans prendre les armes, je trouve pas ça démocratique du tout. Bah, y a une élection présidentielle tous les 5 ans quand même. Ils sont renversables à chaque scrutin, en fait. Alors, c'est vrai que tu ne peux pas les renverser le lendemain de l'élection, mais à un moment, il faut un peu de stabilité. Bon, c'est un peu le jeu, bon, là, c'est un peu le vieux con qui parle, mais à un moment, dans une démocratie, ça peut pas être, peut pas y avoir une élection présidentielle tous les jours. À un moment, bon, ben, déjà que le taux d'abstention n'est pas très important en France, enfin pardon, le taux de participation aux élections n'est pas très important en France, en demandant une fois tous les 5 ans aux gens de voter, si tu leur demandes de voter tous les jours, je ne sais pas combien de temps vont continuer les gens à voter. Donc à un moment, les gens se réunissent, ils votent, ils désignent avec toutes les polémiques que l'on connaît, premier, deuxième tour, un président, une présidente de la République un jour, et puis après, bon, bah, on attend la prochaine si on n'est pas content. Mais à un moment, il faut un minimum de stabilité, un régime politique pour pouvoir mettre en place des réformes, ce pour quoi il a été élu, quoi. Je pense. C'est plus... Pimpi Antea évoque autre chose qui est intéressant. C'est plus l'arrogance dans la manière d'exercer le pouvoir qui est inquiétante qu'autre chose. Voilà. Tiens, on va faire un sondage. Bon, oui, il y a une question qui me dit, et si on faisait un sondage? Ben oui, c'est exactement un bon exemple où le sondage peut être intéressant. Est-ce que je pose la question tout simplement? La France... est-elle une démocratie illibérale? On vient de définir ce qu'était une démocratie illibérale. Vous avez deux personnalités qui ont exprimé leur avis et leur opposition. À vous de vous prononcer. Si vous voulez vous prononcer, bien sûr, ça n'est pas obligé. Je mets oui, la France est une démocratie illibérale. Démocratie, voilà. Oui, non, je ne sais pas. Alors, bon, un sondage un peu binaire. Qui ne rentre pas dans le détail, mais ça va nous donner un petit peu une tendance quand même. Je lance le sondage. À vous de voter. Est-ce que la France est une démocratie illibérale? Hop. Alors, je lis encore un ou deux messages avant d'aller voir le sondage. Oh, j'avais un message qui était intéressant. Ah, où est-ce qu'il est? Je l'ai perdu. Oui, merci. Bruni, je crois qu'on est dans une démocratie, mais il faut faire attention à la protéger, car certaines choses ne vont clairement pas. XGZU, bah écoute, j'ai pas fait exprès. Pour une fois, je prononce bien un pseudo. Hein. Et toi, tu es licenciable n'importe quand, me dit Bolomus. Merci pour le gentil message, Bolomus. Moi, je n'ai pas été élu par le suffrage universel. Donc ma légitimité, elle n'est que celle, à un moment, que me donne un patron. Si le patron veut me virer demain parce que ma tête ne lui revient pas ou il n'aime pas ce que je fais, pas de souci, j'irai bosser ailleurs. Je ne me suis jamais fait virer, d'ailleurs, d'une boîte. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas un jour, ça. Pas de dictature, mais démocratie défaillante, estime OG75. On ne vit pas dans une dictature ferme ta gueule, mais plutôt dans une démocratie cause toujours, dit Gobwell. Intéressant. Kiki de Jungle, je me demande s'il y aura une diminution de l'abstention aux prochaines élections. Mon sentiment, c'est que non, mais je peux me tromper. Et j'espère que je me trompe. Allez, sondage, pardon, je vous le montre, voilà ce que ça donne. Est-ce que la France est une démocratie illibérale? Vous êtes 46% à me dire oui, c'est important. Vous êtes 34% à me dire non. Je ne sais pas, 21%. Alors après, la démocratie illibérale, on peut en donner plein de définitions. Hein. Une démocratie illibérale, une démocratie dans laquelle certains piliers de la démocratie, quelqu'un nous en donne une très bonne définition tout à l'heure, ne fonctionnent pas. Là, on pourrait presque tous s'accorder à dire que oui, il y a des choses dans notre démocratie qui ne fonctionnent pas. Alors après, est-ce qu'il faut créer presque artificiellement un camp des démocraties libérales dans lequel la France, la Hongrie, la Pologne, la Russie, Israël et autres, c'est exactement la même chose. Bon, on a tous senti que tous ces régimes étaient par leur fonctionnement et leur histoire extrêmement différents, donc peut-être que c'est un peu artificiel. Voilà. Non, la France n'est pas une démocratie libérale. 33%, et vous êtes très nombreux à ne pas vous prononcer parce que le sujet est complexe, et aussi peut-être parce que justement vous ne vouliez pas rentrer dans cette réflexion un peu binaire, qui est un peu plus compliquée, bien sûr. Yaya Zdouk, merci pour le Prime. Je vais mal le prononcer, mais Max Ginger. Ah, je crois que j'ai peut-être réussi. Merci pour le Prime. Vico Tico, merci pour ce 20e mois d'abonnement qui claque. Sailim C, merci pour cet abonnement. Vous êtes formidable. Allez, on enchaîne parce que j'ai plein de choses à vous lire. Encore, on va parler de la crise du logement en France grâce au Figaro. Regardez, mais merci au Figaro parce que c'est super intéressant. Dossier vachement intéressant. 11h, Samuel, dépêche-toi, t'as plein d'articles. Go. Q-Sec. Qui m'a appelé là? C'est une urgence ou pas? Oh, j'ai un message. Alors moi j'ai tendance à dire que je ne décroche pas souvent le téléphone, mais quand quelqu'un laisse un message, c'est que c'est important. Vous m'excusez. Ah, c'est super intéressant ça. Il y a quelqu'un qui m'a invité à un festival de cinéma à Montélimar. C'est un festival vachement intéressant qui réfléchit. Enfin, voilà, qui réfléchit vachement. Enfin, c'est super intéressant. Notamment pour apporter le cinéma aux jeunes. Voilà. Et donc, c'est un festival qui a lieu à Montélimar, qui m'a invité pour échanger un peu avec le jeune public sur plein de choses. Et Montélimar, c'est une ville où j'ai vécu et où je ne suis pas retourné depuis très longtemps. Donc j'ai dit oui, et je vais rappeler la personne. Voilà. Allez, la crise du logement grâce au Figaro, dossier très intéressant. Logement, la nouvelle crise qui alarme le gouvernement, mais pas que le gouvernement. La hausse des taux d'intérêt a déstabilisé le marché de l'immobilier. Déjà surréglementé, la construction est en berne et l'accession à la propriété devient de plus en plus difficile. À entendre le président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, qui va bientôt laisser sa place d'ailleurs, puisqu'il y a une élection à la présidence du MEDEF qui arrive bientôt. Relayant les signaux d'alarme répétés des professionnels de l'immobilier, la France va au-devant d'une catastrophe carrément. Dans le domaine du logement, en raison de la hausse des taux d'intérêt, les ménages ont de moins en moins accès au crédit et ne peuvent plus acheter. Voilà, les prix de l'immobilier ne baissent pas, clamakine, les loyers explosent. C'est exactement ce dont on va parler. Vous allez voir, vous êtes peut-être concerné, peut-être empêché vous-même d'acheter ou de louer l'entretien que vous voudriez. Il y a péril en la demeure. Vous voyez, c'est l'édito de Gaëtan de Capelle qui est en bas. Je zoome un petit peu. Lisons cet édito. Sans blague, même louer, c'est un enfer, je sais, Klinget, je sais. Le grand débat sur le pouvoir d'achat a jusqu'ici fait une surprenante impasse, se dit Gaëtan de Capelle, sur l'une des préoccupations majeures des Français. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de logement en France, alors que c'est un vrai souci, quoi. Le Figaro a raison sur ce truc-là. Contrairement aux 2 ans de travail supplémentaire de la réforme des retraites, aisée à matérialiser et à comptabiliser, la douleur insidieuse du mal-logement ne fait descendre personne dans la rue. Vous avez vu des gens manifester, vous, contre le problème d'accessibilité au logement en France? Pas trop. Elle n'en constitue pas moins une souffrance quotidienne pour tous ceux nombreux contraints d'habiter loin de leur lieu de travail, pour qui les centres-villes sont devenus inabordables. Une angoisse pour ceux tout aussi nombreux qui arrivent à la fin de leur vie active sans avoir eu la possibilité de s'acheter un toit. Une colère enfin pour ceux qui ne pourront jamais habiter dans leur région, près de leur famille et de leurs racines, victimes de prix devenus dissuasifs. C'est embêtant. Des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour alerter sur les dangers de cette crise du logement qui grossit à vue d'œil. Il faut les entendre car derrière elles se profile le risque d'une autre crise sociale, celle-là hautement inflammable dans un pays qui actuellement qui est un petit peu à fleur de peau. Ok. Je voudrais saluer la personne qui vient d'arriver dans ce chat pour la première fois avec un premier commentaire assez intéressant qui va nous aider à progresser un petit peu sur le débat qu'on est en train d'évoquer. C'est Roro du 35 qui vient d'écrire « T'es casse-couille », c'est son premier message. Voilà, je ne sais pas pour qui est ce casse-couille, mais je vous laisse expliquer cette personne ce qu'on essaie de faire ici. Je lui ai mis un petit ban provisoire pour qu'il aille prendre une petite tisane. Reste avec nous, essaie de débattre, mais tu vas voir, c'est pas tout à fait le genre de commentaire qu'on essaie de créer ici. Mais on te fait plein de bisous quand même. Bonne camomille. J'aime bien donc ce constat du Figaro. Derrière elle se profile le risque d'une autre crise sociale, celle-là hautement inflammable dans un pays à fleur de peau. On connaît les causes de cette lente dérive, prix excessif, hausse des taux d'intérêt, frilosité des banques qui écartent d'emblée une grande partie des candidats, surtout les plus jeunes, à l'acquisition. Peut-être que vous êtes dans cette situation. L'inflation de règlements imposés aux promoteurs, aux propriétaires et aux collectivités au nom d'impératifs climatiques aux prétendument sociaux achève de gripper le marché. Soyons humbles, il n'existe pas de remède miracle à un problème d'une telle ampleur. En revanche, une remise à plat de la politique du logement qui coûte quand même 40 milliards d'euros par an, ainsi qu'un inventaire critique de la réglementation relève autant du bon sens que de l'urgence. Voilà, j'ai un dossier qui est assez complet ici. Je lis un ou deux commentaires et je vais vous lire ce dossier. J'ai acheté début 2023 à 24 ans, une véritable croisade, me dit Ace20. Tu te balades le soir dans les rues du centre de Lyon, aucune lumière aux fenêtres à 21h. Et oui, vous avez des villes hein, qui sont vidées de véritables habitants. Une ville comme Saint-Malo est confrontée à un problème où il y a plein d'appartes qui ont été achetés ces dernières années par des propriétaires qui les mettent sur Airbnb direct en fait. Et vous n'avez plus que des touristes et il n'y a plus d'habitants, quoi. Voilà. Et c'est une catastrophe. Voilà, chacun y va de son témoignage local et c'est très intéressant. Sunblasted Shadow, j'habite dans un quartier populaire de Lille. La plupart des immeubles sont rachetés par de nouveaux riches qui ne veulent louer qu'aux étudiants. Couple de jeunes cadres et pourtant en région parisienne où on travaille, on ne peut pas espérer mieux que 40 mètres carrés en banlieue, me dit Delphine Bob. Voilà. Voilà. Le Figaro a raison de dire que c'est une préoccupation majeure des Français, je le vois dans les commentaires, et on en parle très peu. Tiens, Cryptix 6, je devais acheter cette année. Tout était prévu, mais les évolutions m'ont tué. Là, on parle de la remontée notamment des taux d'intérêt. Les banques qui étaient OK ne peuvent plus me prêter. Voilà, c'est exactement ça. Oui, promis, je vais faire un petit réglage au micro. C'est vrai qu'il claque de temps en temps. Je suis à combien sur le micro, là? Ouais. Attendez, je fais un petit réglage. Hop. Voilà. Voilà. Ça devrait aller un petit peu mieux comme ça. Lisons ce dossier du Figaro. La crise du logement s'amplifie et inquiète le gouvernement. Bon, bah déjà, ils sont un peu au courant du problème. C'est envie de dire, c'est déjà ça. La France va au-devant d'une catastrophe dans le domaine du logement. C'est donc Geoffroy Roux de Bézieux, qui est l'actuel président du MEDEF, qui dit ça. Voilà, j'ai plein de témoignages qui sont extrêmement intéressants. Qui a pris son bâton de pèlerin depuis quelques jours pour alerter les pouvoirs publics. Avec des mots identiques, Pascal Boulanger, qui est le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, prévient d'une manière plus pressante que l'année 2023 sera même catastrophique. Au-delà de leur impact économique, les graves difficultés que connaît actuellement l'immobilier risquent d'engendrer une crise sociale. Si les Français ne parviennent pas à se loger correctement, de quoi envisager une bombe sociale? C'est un terme qui a été employé pour la première fois en 2022 par Robin Rivaton, qui est essayiste et spécialiste de l'immobilier et que tout le monde reprend aujourd'hui, donc risque de bombe sociale en France. Les derniers chiffres sont particulièrement inquiétants, nous dit le Figaro. Dans le neuf, les promoteurs ont subi une baisse des ventes en 2023 de près de 25%. Les apparts ne se vendent plus. La demande des ménages a commencé à ralentir l'été dernier et s'est même effondrée au mois de décembre. C'est en effet le retournement à la hausse des taux d'intérêt, on en parlait tout à l'heure, et des politiques très prudentes des banques en matière de crédit qui ont déclenché la crise actuelle. Les premiers touchés sont les primo-accédants, hein, ceux qui deviennent propriétaires pour la première fois, et aussi les ménages modestes. C'est un public qui a moins d'apports, qui emprunte davantage, pour qui donc la hausse des taux est délétère. Ambiance délétère, alerte Maël Bernier, porte-parole du courtier Meilleur Taux. Certains ménages n'ont tout simplement plus accès au crédit. Voilà, c'est finito. Les banques ont refermé les vannes, se concentrent désormais sur les meilleurs profils au détriment des moins bons, les plus riches. On a l'exemple d'une banque nationale qui refuse les dossiers des foyers avec un revenu inférieur à 5000 euros. Nous dit quelqu'un dans l'article. Une grande banque nationale qui ne regarde même plus les dossiers d'un foyer dont les revenus sont à 5 000 euros. 5 000 euros! Enfin, c'est déjà un bon revenu pour le foyer. Eh bien, la banque ne regarde même plus ces dossiers. Ce qui exclut d'emblée, constate Le Figaro, une grande partie des Français. Le blocage de l'accession à la propriété immobilière est une bombe sociale potentielle. Il accroît les inégalités en séparant clairement ceux qui possèdent un ou plusieurs biens immobiliers et ceux qui en sont exclus. Voilà. Je continue l'article que je trouve passionnant. Est-ce qu'il y a des solutions ? Merci beaucoup Nonouille pour l'abonnement. Merci Mani 17000 pour le deuxième mois. Et encore merci à Yazdouk, mais je crois que je t'ai remercié déjà tout à l'heure. Pour juguler cette crise de l'immobilier, est-ce qu'il y a des solutions ? Le gouvernement a organisé un conseil national de la refondation sur le thème du logement afin que toutes les parties prenantes lui fassent des propositions. Restitution prévue le 9 mai prochain, mais des mesures d'urgence vont être prises rapidement. Par exemple, la Caisse des dépôts, comme en 2020 et 2008 d'ailleurs, va venir à la rescousse des promoteurs immobiliers et du monde de la construction en achetant des appartements aux promoteurs, ce qui permettra à ces derniers de lancer leur programme et leur chantier, et donc soutiendra la construction. Parce que derrière, il y a plein d'emplois. Quand on dit « Ah, là, là, les promoteurs n'arrivent plus à vendre leur appartement », vous pourriez dire « Ah, bah, les promoteurs, ça va, ils ont des sous ». Derrière, c'est le BTP. C'est des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'emplois. Le gouvernement souhaite également convaincre les banques de desserrer les cordons du crédit immobilier et compte prolonger le prêt à taux zéro qui devait s'éteindre à la fin de cette année. Donc, il y a des petites mesures d'urgence qui arrivent. Par ailleurs, la politique logement du gouvernement peut avoir des conséquences négatives. Par exemple, la volonté, alors ça c'est un autre aspect, ça c'est Le Figaro qui dit ça, la volonté de lutter contre les passoires thermiques, vous savez, au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, est louable sur le plan environnemental, mais très déstabilisante. Exemple, vous savez que les biens les plus énergivores sont interdits de location depuis le 1er janvier. En 2025, ce sera le tour des logements simplement notés G sur l'étiquette énergie, F en 2028, des biens qui ont logiquement davantage de difficultés à se vendre, mais aussi donc à se vendre auprès des investisseurs, mais aussi à ceux qui achètent pour habiter. La difficulté à trouver des professionnels de la rénovation énergétique, il n'y en a pas assez, dissuade les acheteurs, sauf à avoir un gros rabais sur le prix, ce que les vendeurs ne sont pas prêts à concéder, puisque voilà, entre le moment où le marché s'enraye, celui où le prix baisse, parfois il y a un petit delta. Ce ralentissement des ventes dans le neuf et l'ancien grippe aussi le marché locatif. Voilà, là on parle de l'achat, mais il y a aussi des soucis au niveau du marché locatif. Tous les éléments concourent à raréfier l'offre de logements à louer. Les ménages qui ne peuvent pas acheter restent locataires. Vous voyez les tensions sur le marché de la location. Le nombre de préavis de départ de locataires a été divisé par deux, selon les professionnels, quand les demandes, elles, s'envolent. Quand on met un bien en location, on peut recevoir 300 appels. Quand on en recevait une dizaine auparavant, témoigne un professionnel. Des difficultés qui pèsent sur le moral des Français. On descend rarement dans la rue pour parler de ces conditions de logement, mais des difficultés peuvent aussi pousser à faire du bruit avec des casseroles, même si ce n'est pas la cause principale. Passionnant, merci au Figaro pour ce sujet. Vous en pensez quoi ? J'ai la risque, merci pour le quatrième mois de soutien. Il y a Viachon qui propose un système radical. Une solution serait de limiter le nombre de biens immobiliers au sein d'un foyer. Par exemple, max un bien par personne d'un foyer fiscal. Si les enfants partent, les parents doivent leur donner le bien ou le revendre. Une telle solution améliorerait le système pour que les primo-accédants, tout en laissant la possibilité de léguer quelque chose à ses enfants. Voilà. Alors le problème, c'est que après, il y a des gens qui ne veulent pas acheter aussi, qui veulent être locataires. Donc pour qu'ils puissent louer, il faut qu'il y ait des propriétaires qui aient un autre logement que celui de leur logement principal. Donc des petites limites à ton système, si je puis me permettre. Voilà, Graziella confirme. Nous venons d'acheter, c'était limite. Sans notre courtière, notre dossier aurait été rejeté direct. Elles nous ont informé que les banques ne veulent que des dossiers à 5000 euros minimum, ce qui est clairement pas le cas de la majorité. Waouh! Waouh! Merci Mr. Nuts pour les conseils, c'est adorable. J'ai eu la chance d'acheter mon appart juste après le Covid, taux à 0,8%, dentifrice spatiale, écrit dans le chat, là on se dirige vers du 3, vers du 4%. Astremund. Je vis au Pays Basque. Les prix achat loc sont affolants pour les locaux qui veulent s'installer, sans parler du, ça je sais, du nombre de volets fermés dans certaines villes en hiver. Les résidences secondaires, ça met très en colère, hein, les résidents, ceux qui vivent à l'année. Les gens sont en colère ici, les agences immobilières sont taguées. J'ai déjà vu une résidence secondaire être brûlée. Je ne sais plus où, dans quelle ville française récemment. Il y a même des militants qui sont rentrés dans des apparts Airbnb pour taguer l'intérieur de l'appart en disant stop, stop, stop. Tiens, je confirme, dit Xermardès aussi, trouver une location à Strasbourg, c'est le parcours du combattant tellement il y a de demandes par bien. Marino, c'est un rendez-vous demain à la banque pour discuter du prêt, justement. 6 mois pour trouver un logement sur Le Mans. Affreux, me dit Parker. Hein? Bripin demande qu'on s'intéresse aux excès du Airbnb. Je crois que tu as raison. Red Metal 31, merci pour ce nouvel abonnement. Pour 6 mois? T'as pris un abonnement pour 6 mois? Waouh! Je serai là dans 6 mois. Hein. Mathis, merci pour le 9e abonnement. Merci pour le message aussi, qui m'a fait rire. Bon, vous êtes d'accord avec ce constat. Hein. Et quand vous voyez, là, vous êtes tout en train de parler des soucis que ça vous pose au niveau des prêts au niveau de l'achat ou de la location. Et quand on voit la médiatisation de ce sujet... Ben, on voit bien qu'il y a un problème, quoi. On devrait en parler beaucoup plus. Ouais. Et je dis merci au Figaro et je dis merci à Nini Poléon pour ce prime. J'accélère parce que j'ai plein de choses à vous lire ce matin. Je suis censé vous abandonner dans 45 minutes à cause d'un call. J'ai 3 coups de fil importants que pour des streams. À voir juste après. Et puis je vous donne rendez-vous. Hop, je vous rappelle, bien sûr, l'hebdo Étienne numéro 31 ce soir avec Link, Julien Chiez, Zach Moment pour revenir sur l'actualité de la semaine. On revient à la presse avec l'opinion. Oui, j'aurais bien fait un petit café quand même. J'ai le temps de me faire un petit café super rapide là. Il reste 3 quarts d'heure. Qu'est-ce qu'il y a? L'opinion, les échos, le jeu japonais. Ouais, je me dépêche. Vous me donnez le go, là, j'ai le droit. Je suis presque à 2 heures de stream. Je fais un petit café et on parle des annonces de baisse d'impôts en France, du salaire des patrons, de la fin de la vaisselle jetable, du nouvel âge d'or du jeu vidéo japonais. Alors ça, c'est sûr qu'on le lit. Puis rapidement, des casserolades, des déplacements du président Macron et un petit horoscope pour finir. Voilà, tout ça, on le fait, garanti. Mais je vais juste me faire un petit café. Let's go, let's go, let's go. Ok, je vous mets une petite pause. Quelle belle image. Je suis trop content de cette nouvelle caméra. Ok, je vous mets une musique. 3 minutes de musique pour les abonnés. Une petite pub pour ceux qui ne le sont pas, ça vaille le café. Brit, merci pour le 10e mois d'abonnement. Ika Bode Warrior, merci pour le 6e mois. C'est parti, à tout de suite. Allez vous hydrater aussi, c'est important. À tout de suite. I'm not.
train where to dump the traps by the rooftop.
Is this how the beach
near the brick
feel?
House where they break
dreams
and they wonder. And they're working so hard.
Can't plant the seed right here.
And they're working so hard.
And they mask the front page fear.
And they're working so hard.
Too scared to show them.
Take a moment to breathe in the fight.
By the rooftop.
J'adore ce groupe, Ojikubo Station. La chanson, c'est Weak Souls Walk Around Here. Trop content de cette caméra. J'ai fait au plus vite. Il nous reste 38 minutes de stream. Et j'ai plein de choses à vous dire encore. C'est parti pour l'opinion donc sur deux infos. Pop. Pour ceux qui posaient la question dans le chat à l'instant, le dossier sur l'immobilier qu'on vient de lire, c'est dans Le Figaro. D'abord, l'opinion qui nous parle du rapport de l'ONG Oxfam sur le salaire des grands patrons, et l'opinion qui, et c'est tout à fait logique parce que l'opinion, c'est un journal qui plutôt soutient les entreprises, les entrepreneurs, l'esprit d'entreprise, ouais, qui ne le cache pas, bon, bah, c'est la ligne éditoriale du journal, et qui défend en fait les patrons, voilà. C'est l'opinion qui nous donne son opinion, comme le dit Naboy exactement. Salaire des PDG, le faux scandale. Le faux scandale. En fait, l'opinion va taper sur Oxfam. Vous êtes prêts ? Avec ses raccourcis racoleurs, Oxfam n'en finit pas d'abîmer le débat public. Que l'ONG, soi-disant à l'avant-garde de la lutte contre la pauvreté, use et abuse d'un marketing de la colère pour susciter les dons, pourquoi pas ? C'est son business. Mais que sous couvert de recherche, ces punchlines biaisées orientent la polémique, voilà qui en dit long sur le niveau général. Ainsi, sa vérité du jour, un must de la polarisation à la française, les PDG des 100 plus grosses entreprises françaises, c'est ce que dénonce effectivement Oxfam, gagnent 97 fois le salaire moyen de leurs employés. Oxfam fournit une explication au choc, profonde comme un tweet, vous savez que l'opinion est un petit peu en colère. C'est la faute à ces cupides de patrons qui, eux, ne s'oublient pas. Le stratagème est connu, les populistes l'adorent, dénoncer les excès réels. Alors, l'opinion reconnaît qu'il y a des excès dans la rémunération des entrepreneurs, hein, pour les grosses entreprises. Dénoncer les excès réels pour mieux décrédibiliser l'ensemble du système. Et c'est là que l'opinion dit à tort. Pour ceux que la réalité intéresse encore, mieux vaut lire l'INSEE, estime l'opinion. L'Institut nous apprend que si les 5% des Français les plus riches touchent 40 fois plus de revenus quand même que les 5% les moins aisés, après redistribution, hein, merci Pauline pour le quatrième mois d'abonnement, après redistribution et l'utilisation des services publics, l'écart est 8 fois moins important entre les premiers et les seconds. Donc c'est pas 40 fois, c'est 8. Avec ce calcul-là. La redistribution, l'emploi, les services publics. Quelques rémunérations choquantes n'y changeront rien. En France, la machine à réduire les inégalités n'a pas d'équivalent au monde, estime l'opinion. Pour le coup, il y a des études qui confirment ça. C'est-à-dire que le système redistributif français a assez peu d'équivalent dans le monde. Ça, c'est assez statistique. C'est vrai que cet argument, on peut difficilement le contester. Nos défenseurs patentés les plus démunis devraient plutôt s'intéresser à l'efficacité de la dépense publique, du coup, estime le journal, car la dégradation de l'école, des hôpitaux ou de la justice impacte d'abord ces 60% de Français qui reçoivent davantage de l'État qu'ils ne lui versent, car seule une gestion plus efficace de l'administration permettra de réduire les impôts des classes moyennes, ponctionnés comme jamais, des sujets, c'est vrai, moins vendeurs que les fariboles d'Oxfam. Bon, évidemment, vous avez compris que l'opinion n'est pas tout à fait d'accord avec l'analyse de l'ONG. Justement, l'opinion appelle à baisser les impôts sur les classes moyennes, eh bien, le gouvernement le promet. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, annonce une nouvelle mesure de réduction d'impôts. Annonce, est-ce qu'il y aura une réduction d'impôts ? Ça, on verra. La drague fiscale est rouverte, titre donc le journal, qui explique que mercredi, le ministre a déclaré « Dans ce quinquennat, nous baisserons à nouveau les impôts qui pèsent sur les classes moyennes. » Alors c'est une annonce un peu surprise. Ça n'était pas du tout dans les promesses, dans le programme du candidat Macron pour son deuxième mandat en fait. Donc c'est assez surprenant. Ah non, surprise qui n'était pas dans le programme, rappelle l'opinion. Depuis plusieurs mois, donc Gabriel Attal, le jeune ministre de 34... Il a 34 ans ? C'est un enfant. Il a 34 ans ? Alors là, c'est un enfant. Bref, Gabriel Attal, venu du PS, a fait de la défense des classes moyennes, aussi difficile à définir soit-elle, qu'est-ce que c'est les classes moyennes ? Sa marque de fabrique. Il en a donné d'ailleurs sa propre définition au journal Le Monde. Les classes moyennes, ce sont eux qui comptent pour l'essentiel sur leur travail pour vivre, pas sur les aides sociales ni sur un gros patrimoine. C'est la définition qui est assez intéressante que donne Gabriel Attal. À Bercy, alors certains espèrent pouvoir concrétiser cette nouvelle promesse de baisse des impôts vite, face à l'envolée des prix, notamment alimentaires, la mesure pourrait être concrétisée dès le budget 2024. On pourrait parler aussi du logement, on vient d'en parler. L'outil fiscal à utiliser ne serait pas encore tranché. Alors on baisse les impôts, mais comment ? Lesquels ? Hein, pour qui ? On pense évidemment au bas du barème de l'impôt sur le revenu. Vous savez que l'impôt sur le revenu est progressif en France, c'est-à-dire qu'il y a un barème, et plus vous gagnez d'argent, et plus en pourcentage, on vous enlève. Hein, on en a déjà parlé régulièrement. Là, on toucherait peut-être au bas du barème de l'impôt sur le revenu pour que ça profite aux classes moyennes et manifestement pas à ceux qui gagnent le plus. La diminution des droits de succession, qui était aussi un sujet, qui d'ailleurs c'était dans le programme du président Macron, a été repoussée. Qui poursuit qui dit ça d'ailleurs ? C'est quelqu'un à Bercy. Ce n'est pas la priorité des classes moyennes qui ne paient généralement pas de droits de succession. Vous savez qu'il y a des abattements sur les droits de succession et sur les successions les plus modestes. En fait, on ne paye pas de droits. En début de semaine, le gouverneur de la Banque de France, c'est intéressant ça, a pourtant de nouveau appelé dans sa lettre annuelle au président de la République à arrêter les baisses d'impôts non financées. François Villeroy de Gallo, qui est donc le gouverneur de la Banque de France, veut donner la priorité pas à ça, mais au désendettement. Visiblement, il n'a pas été entendu et le gouvernement lui répond « Ce n'est pas la Banque de France qui fait la politique économique de la France. Chacun son rôle. » Intéressant, hein ? Shizuma, merci pour le prime. Je termine et puis je vous lis. « Cette nouvelle baisse d'impôts ne constitue qu'une pièce du puzzle destinée à draguer les classes moyennes. Afin d'en appeler à la France qui se lève tôt et ne bénéficie toujours pas des prestations sociales, Emmanuel Macron a aussi promis, dès la présidentielle, de remobiliser les titulaires du RSA afin qu'ils puissent retrouver un emploi plutôt que de rester scotchés dans la misère, une nécessité pour tenir sa promesse du plein emploi. Mais pas que. Vous savez, la réflexion sur le RSA, pour les faire revenir plus vite dans l'emploi, c'est ce que souhaite faire le président Macron. Alors il y a débat là-dessus. Ça n'est pas que pour réduire le chômage. L'opinion explique. Les Français font de plus en plus le constat que lorsqu'ils partent travailler, Jojo est au bar. Je cite. C'est quelqu'un du côté de Matignon, hein, des services du Premier ministre, qui dit cette phrase. Okay, bon. Voilà. Les Français font de plus en plus le constat que lorsqu'ils partent travailler, Jojo est au bar. Bon, Jojo, c'est le gars qui profite du RSA, hein, vous avez compris. Il y a quelqu'un à Matignon qui dit ça, quoi. C'est un truc qui nous revient énormément, il faut qu'on traite ce point. Et tant pis si la mesure consiste avant tout à mieux accompagner les personnes au RSA pour les aider à retrouver du travail, plutôt que les obliger à travailler sans qu'ils aient droit à un vrai salaire. Heureusement quand même. Moi aussi, Jojo, j'ai été surpris. Ouais. Bon, mais quelqu'un a dit cette phrase. Aujourd'hui, les classes moyennes ont un sentiment très fort d'injustice, d'assumer tous les coûts qu'elles n'en ont pas pour leur argent en termes de retour au niveau du service public, dit un député RN, Jean-Philippe Tanguy, qui se pose justement défenseur de cette France du milieu. Le plan de lutte contre la fraude d'en haut comme celle d'en bas, comme le dit Gabriel Attal, s'inscrit dans la même lignée, montrer qu'il n'est pas possible de profiter du système quand l'immense majorité des Français a l'impression de payer pour les autres, c'est toujours la même idée, au risque d'être accusé par la gauche de mettre ses pas dans ceux du Rassemblement National. Tout le monde est en train de s'intéresser sur Jojo. Voilà. Les études de l'INSEE montrent très bien qu'en convertissant en euros la valeur des services publics, c'est intéressant ça, je prends le temps. Les études de l'INSEE montrent très bien qu'en convertissant en euros la valeur des services publics comme l'école gratuite, 6 Français sur 10 sont gagnants en fait de ce système socio-fiscal, même s'ils ne le perçoivent pas forcément. D'où l'idée qui revient en force en Macronie de se concentrer aussi sur le bon fonctionnement des services publics au quotidien. Nous devons assurer les fondamentaux des services publics, martèle par exemple le ministre de la fonction publique Stanislas Guérini. D'où les annonces récentes sur le délai d'obtention des papiers d'identité, sur le remplacement des professeurs en cas d'absence. Du côté du ministère du Travail, on aimerait encourager les entreprises à augmenter les salariés, on aimerait les encourager à augmenter les salariés, mais on ne les oblige pas, qui touchent un peu plus que le SMIC et dont la rémunération est rattrapée par, vous savez, l'indexation du salaire minimum sur les prix. Des salariés dont la progression salariale peut être de ce fait compromise, qui nourrit le sentiment de déclassement, cela reste toutefois beaucoup plus facile à promettre qu'à faire. Voilà. Intéressant, non ? Alors, mea culpa dit, mais si les pauvres sont gagnants avec les écoles publiques, pourquoi les riches envoient leurs gosses dans les écoles privées ? Ben, l'article évoque le fait de ces riches, comme tu le dis, qui envoient leurs enfants dans les écoles privées, parce qu'ils estiment que le service public de l'éducation nationale, justement, n'est pas suffisant et d'assez bonne qualité, et le gouvernement veut agir là-dessus. On rappelle que la fraude fiscale est supérieure à la fraude sociale, BASMLV, oui, tu as raison, il faut le rappeler. Et que la somme des prestations sociales non réclamées est énorme, oui, tu as raison. Tu as raison là aussi. Alors le gouvernement, lui, il annonce vouloir lutter contre les deux fraudes. Notamment contre les fraudes fiscales des plus riches, en augmentant, j'ai vu à un moment dans l'article, doubler le nombre de personnels dédiés à ces contrôles fiscaux, quoi. Reste à voir si la promesse sera tenue, bien sûr. Captain McBernick revient à Jojo, Jojo au RSA et dit Jojo survit, survit quand la classe moyenne vit, elle, tranquillement, entre les frères et elle, hein, les parts déduites des enfants, là on parle des réductions d'impôts, tout mon voisinage vit très très bien, nous dit Captain McBernick, qui est un modo que je salue, de même que je salue Gandalf Listari, Julot 18, Maj Milamber, MMG7F, Nightbot, bien sûr, et Original Pimous. Voilà. The Cold Fire, en vrai, j'ai un ami qui est de classe moyenne et qui pense qu'il y a trop d'aide en France. Leur discours marche bien. LMI Play. C'est très grave de tenir de tels propos. Ma mère a touché le RSA et c'est compliqué. C'est rarement par choix qu'on le touche. C'est pas simple. Des propos immondes, c'est une honte. Personne ne profite du RSA. Tu gagnes rien avec ça. Des années de galère pendant mon enfance, mais ça nous a sauvés. Sinon, on aurait fini dehors. Merci à toi pour ce commentaire. Jojo, est-ce que ce n'est pas lui qui vit aussi des aventures bizarres ? Me dit j'ai mascu, j'ai la ref. Je pense que vous avez la ref aussi, bien sûr. Jojo, Bizarre Adventure. Allez, encore deux messages et j'enchaîne. Et je vous parle de... J'ai encore le temps ? Ouais, de la fin de la jetesse. De la fin de la vaisselle jetable dans les fast-foods. Hein, tiens, pour une fois qu'il y a une bonne nouvelle, ça se passe bien. On tape toujours sur les pauvres, ça change pas, dit Majora. Oula ! Lloyds qui est en mode révolutionnaire, on aurait dû plafonner les retraites à 2K. Bim ! On aurait gagné une belle marge de manœuvre pour investir dans les services publics ou baisse d'impôts des classes moyennes. Hop, encore un message, le dernier. Ah, formidable. Passe décisive de Tadaron Antemax. Déjà, on valide le pseudo. Tadaron Antemax. Antemax, ton stream est bien, tu es bien, mais il est anxiogène. C'est mieux d'ignorer ce qui se passe pour être heureux. Tiens, une bonne nouvelle, t'as raison. Parce qu'il y a aussi des bonnes nouvelles dans l'actualité. Voilà un truc qui fonctionne. La fin de la vaisselle jetable dans les fast-foods en bonne voie. Là, on est dans le quotidien économique Les Échos, que j'aime bien lire aussi, comme tous les autres quotidiens. Voilà un truc qui fonctionne. La quasi-totalité des enseignes de restauration rapide seront bientôt en conformité fin mai avec la législation qui interdit la vaisselle jetable depuis le 1er janvier. Les premières sanctions sont tombées, parce qu'il y en a qui ne jouent pas le jeu. Bam ! L'amende. Non, mais en vrai, bon, ben, c'est important, c'est bien, hein. Un, c'est le truc du colibri, là. Hein, si chacun fait sa part, on va y arriver, quoi. Après avoir réuni une quarantaine d'enseignes de restauration rapide pour un nouveau point d'étape sur l'interdiction de la vaisselle jetable, le gouvernement a annoncé hier avoir démarré les contrôles et les premières mises à l'amende. Mais dans l'ensemble, après un démarrage poussif, les fast-foods maintenant jouent le jeu. Hein, je tiens à souligner leurs efforts. Je sais que cette mesure assez révolutionnaire pour un certain nombre d'enseignes a dû être compliquée à mettre en œuvre, dit la secrétaire d'État à l'écologie Bérangère Couillard. Stop. Dans un entretien aux Échos. Depuis le 1er janvier 2023, les restaurants disposant de plus de 20 places assises à disposition de leur clientèle sont tenus de les servir dans de la vaisselle réutilisable. Pas de blague, j'ai dit. Une disposition de la loi anti-gaspillage AJEC, vous voyez qu'il y a des choses qui se passent, qui sont bien quand même, qui doit permettre d'éviter 200 000 tonnes de déchets par an, alors que l'an dernier, 20 milliards de contenants et couverts jetables ont été jetés dans les 40 000 points de restauration rapide. 20 000 milliards de contenants, on parle de la France. Hein. Souhaitant laisser aux enseignes le temps de s'adapter quand même, le ministère avait réuni les acteurs du secteur en janvier afin qu'ils lui transmettent leur feuille de route. Finalement, après plusieurs piqûres de rappel, seuls deux n'ont pas encore obtempéré. Domino's, mauvais élève. Ou encore Nabab Kebab. Je connais bien ça, Nabab Kebab, ça je peux dire que je m'en bouffe. Hein. Et bien maintenant que j'apprends qu'ils jouent pas le jeu, pop. Ce sont d'ailleurs celles qui ont été mises à l'amende, 1500 euros par jour et par restaurant. Bam. Sur les 16 restaurants contrôlés, 3 sont vus infliger des amendes, 8 des rappels à la loi. 4 enseignes sont déjà conformes ou le seront fin avril. Brioche Dorée, conforme. Exquis, conforme. Prête à manger, conforme. Le Parc Astérix, conforme. Et la très grande majorité vont respecter la loi après juin, sauf cas très particuliers. Il faut, alors c'est parfois compliqué, il faut souvent engager des travaux, ce qui peut nécessiter des délais, si les locaux sont en copropriété, dans des bâtiments historiques, dit Bérangère Couillard. Si cette mesure que la France est le premier pays européen à mettre en place, c'est bien non ? Représente une étape cruciale dans la lutte contre la pollution plastique, les investissements parfois peuvent être lourds pour les entreprises concernées. Il s'agit non seulement d'acheter la vaisselle réutilisable, mais aussi de prévoir un endroit où la laver, occasionnant en outre des coûts supplémentaires en personnel, en eau, en énergie, sans parler de la pédagogie à entreprendre auprès des consommateurs qui, parfois, tentent de ramener des souvenirs chez eux. Laissez la vaisselle réutilisable sur place, s'il vous plaît. Sinon, ça ne marche pas. C'est bien, non ? Moi, je trouve ça bien. Moi, je dis bravo. Ça mérite un bravo, dit Andby. Moi, je suis d'accord. Vous en pensez quoi ? Pas mal, non ? C'est français, dit Ronny Fleur de Paix. Oui, c'est chez nous. Bien ou pas bien ? Bien ou pas bien ? Bien, bien. Bravo, c'est cool, c'est super, c'est positif. C'est couillu comme proposition. Bah. Oh les râleurs, Fomis. Ils ont juste redécouvert le concept de la vaisselle du restaurant, c'est assez rigolo. Bon, en même temps, c'est pas faux. C'est un bon début, mais il y a tellement plus urgent quand on parle de climat, me dit Boubouninette. Ouais, mais c'est. Moi, vous connaissez ma philosophie là-dessus. C'est la somme de tous les petits gestes qui va nous permettre d'y arriver. Bravo, c'est français, c'est très concret, me dit Antard 63. Et ça augmente les tarifs, regrette Eramény. Moi, je m'en suis pas... T'es sûr ? Moi, ça fait des années que je mange à chaque fois pour 20 euros au McDo. Hein, je prends toujours pour 20 euros au McDo, toujours. Voilà, je prends pour 20 euros, toujours. Et ça n'a jamais augmenté. Donc, vous avez la blague ? Ou pas ? Ça marche aussi avec l'essence. Les prix de l'essence, ça a augmenté ? C'est bizarre. Moi, je fais un plein pour 30 euros depuis des années, ça n'a jamais augmenté. C'est bon, vous avez la blague ou faut que je la refasse ? Je ne suis pas très bon pour les blagues. Vous avez la blague ? Vous l'avez ? Vous avez compris ? Technique ? Non, pas trop en fait. C'est assez simple. Vous l'avez ? Pas mal ? Ok, c'est bon, vous l'avez. Technique ? Ouais, non, vous l'avez. De Vos, il l'a fait ? D'accord. C'est bon. Pas ouf en vrai ? Si, elle est bonne. Elle est bonne. J'ai imaginé Samuel manger au McDo, mon monde a failli s'effondrer. Assez souvent en fait, on est très junk food à la maison. Et on est très jeux vidéo aussi. Je vous rappelle qu'à la rentrée, ça va être full gaming sur cette chaîne. Vous n'allez rien comprendre. On va laisser tomber la lecture du Monde, du Figaro, du Quotidien, les Échos, tout ça. On va être full gaming, ça va être une dinguerie, on va jouer jour et nuit, ça va être une folie. Voilà. Et c'est partiellement vrai, partiellement vrai. Le nouvel âge d'or du jeu vidéo japonais, une pleine page dans les Échos, les enfants, c'est magnifique. Moi j'apprends plein de trucs, là je vais en parler ce soir avec mes invités bien sûr. Berceau de l'industrie vidéoludique, le Japon vit une renaissance à l'international. Capcom tutoie ses sommets historiques en bourse, Bandai, Namco, From Software ont été à l'origine du hit de 2022. Voilà, le berceau de l'industrie du jeu vidéo, le Japon, eh bien, est en pleine forme. Lisons cet article que je trouve vraiment passionnant et je remercie Kakaboudingue qui offre un abonnement à Étoile. J'applaudis surtout pour le pseudo. Andar, bonne journée, bon week-end. Berceau, non, je l'ai déjà lu ça. C'est le propre des légendes. Le lustre s'apprécie avec le temps. Ces derniers jours, l'acteur historique du jeu vidéo japonais Capcom a franchi le cap des 10 milliards de dollars de capitalisation boursière. Record pour ce groupe dont la valorisation devant celle des plus gros acteurs européens, d'Ubisoft à Embracer, en passant par CD Projekt. La raison de cette envolée boursière, eh bien, l'excellent démarrage de son remake de Resident Evil 4, l'une de ses franchises phares lancée fin mars et qui approche des 5 millions d'unités vendues. De dingue, quand même. La semaine passée, Capcom a aussi fait savoir qu'une version mobile de sa série à succès Monster Hunter était prévue pour septembre. Ce sera à l'œuvre de Niantic, qui avait déjà développé le phénomène Pokémon Go. Résultat, le groupe a annoncé qu'il allait écouler 40 millions de jeux vidéo sur son exercice fiscal, son record, et qu'il visait la barre des 100 millions à terme. Donc ça marche. Tout un symbole du nouvel âge d'or que vit actuellement le jeu vidéo nippon, troisième marché mondial derrière la Chine et les États-Unis, le Japon est le berceau, bah, ça vous le savez, des deux fabricants de consoles, Sony et Nintendo, dont les dernières années se portent très bien. Longtemps pénalisé par la pénurie de composants, la PlayStation 5 par exemple a démarré l'année très très fort, devance largement sa rivale, la Xbox Series de l'américain Microsoft. Pour la rentrée, pour ma rentrée gaming là, je fais full PC ou je m'achète aussi des consoles ? Merci Mathia D pour l'abonnement. Faut que j'achète les consoles ? J'ai une Switch déjà parce que Malo il a une Switch. Full PC ? PC. Ah c'est PC. Ah bah c'est PC. Je commence par le PC. PC et Switch ? Ah bah j'ai. Switch et PC la base. Bon moi j'ai, je suis équipé. Pas mon petit PC portable. J'ai un bon gros PC de gaming qui me sert pour l'instant à faire mon émission du vendredi. Mais j'ai déjà investi. Ok, ok. PC et Switch, t'as presque tout. Ok, ok, ok. Merci. J'en étais où ? Donc, la PlayStation 5 se vend très fort. Tiens, on parlait de la Switch. Lancée il y a 6 ans, la Switch de Nintendo s'approche des 125 millions de vente, qui en fait déjà la deuxième console de salon la plus vendue de tous les temps derrière la PS2. C'est un énorme succès. En mai, Nintendo, dont le film Super Mario Bros. Bat actuellement tous les records au cinéma pour une adaptation de licence vidéoludique, on a déjà parlé ensemble de ce film, va aussi lancer un nouveau jeu de sa franchise Zelda, on en parlera ce soir. Non, c'est vrai, je vais vraiment me mettre au gaming à la rentrée, vous allez voir. Mais avec un petit concept que j'ai dans la tête. Zelda qui devrait remettre justement du vent dans les voiles de sa Switch. On en parlera de Zelda ce soir dans l'hebdo Etienne. Derrière ces deux porte-drapeaux du jeu vidéo nippon, il y a une flopée d'autres groupes qui se portent bien. Développé par le studio Kojima et lancé en 2019, le titre Death Stranding a atteint en fin d'année dernière le cap des 10 millions de joueurs. Couronné jeu de l'année lors des derniers Game Awards, Elden Ring a lui été le carton de l'exercice 2022, je ne sais pas si vous êtes d'accord, franchissant le mur symbolique des 20 millions de ventes un an après sa sortie. Ce titre a été édité par le géant japonais du divertissement Bandai Namco et développé par le studio nippon From Software. Autre acteur japonais de renom, ça n'est pas terminé, Square Enix va lancer en juin, ça arrive, son titre Final Fantasy 16, déjà auréolé d'un buzz mondial. Cette période prolifique, vous voyez que ça se passe bien pour l'industrie nippone, intervient après une longue décélération à l'international, c'est ça qui est intéressant. Pendant une dizaine d'années, les acteurs du jeu vidéo nippon étaient sur un mode plus défensif en se focalisant sur leurs licences historiques, sont repliés sur leur marché intérieur qui est assez dense pour les faire vivre. Pendant un temps, ils ont eu un petit peu de mal face à l'essor des grands éditeurs occidentaux comme EA, Take-Two, Activision ou encore Ubisoft. Illustration la plus flagrante, par exemple, le déclin de la franchise de football Pro Evolution Soccer de Konami qui a été balayé au début des années 2010 par, vous savez, par le FIFA, devenue l'une des principales cash machines d'EA de l'industrie. Mais ils sont repassés à l'offensive maintenant à l'international. On sent qu'il y a une vraie attente pour les nouveaux volets des licences historiques comme Tekken, comme Street Fighter, Kayane m'en parlait il n'y a pas longtemps, ou encore Dragon Ball. Vous en pensez quoi ? C'est intéressant, hein ? Aujourd'hui, il y a Star Wars qui sort, me dit Niku Manga. Bah, tu sais quoi ? On en parle ce soir, dans l'hebdo Etienne. Ça, c'est dur, la crème de la flemme. Depuis que j'ai fini Elden Ring, il y a un mois, je trouve tous les autres jeux lents et fades. Oh zut, c'est dur ça. Pas encore joué à Elden Ring, mais il mérite ce titre, me dit Poum. Poum. Banger Elden Ring, vous êtes d'accord ? C'est Piflo qui me dit ça, notamment. Et Samuel qui dit j'ai un bon gros PC gaming. Eh oui, oui, c'est ça. Qui fait de la lumière aussi. Fou, voilà. La nuit, je le mets sur mon scooter pour faire un petit peu, tu vois, genre scooter japonais un peu tuné, quoi. Formidable. Par contre, il me faut une super grosse rallonge, donc je tourne dans le quartier essentiellement, en fait. Tu vas jouer à quoi comme jeu ? Je vais jouer à tous les jeux. Je vous tease. Je vous tease l'émission que je vais essayer de lancer à la rentrée. Il faut que je trouve un partenaire, il faut que je trouve un sponsor parce qu'elle va me demander un peu de moyens. Donc dans mon petit studio de stream ici, c'est pour ça que j'ai fait ce move aussi. L'idée, c'est de partir à la découverte de l'univers du jeu vidéo dans son ensemble. Le pitch étant Papy Sam, 51 ans, qui a joué pour la dernière fois au jeu vidéo en 1988, s'est rendu compte qu'entre-temps, eh bien, cet univers avait explosé. Voilà. Et t'es devenu socialement, artistiquement, économiquement juste ouf, quoi. Je pars à la découverte de cet univers à partir de la rentrée, idéalement avec une hebdomadaire, en recevant à la maison eh bien, des passionnés de tel ou tel jeu, pour qu'on parle de ce jeu, pour qu'on joue ensemble, et qu'on parle de leur rapport au jeu, etc. Et tout. C'est le projet, il faut juste après que je trouve les moyens pour le faire. Je cherche les petits supports pour ce faire. La marque acceptera de mettre un petit billet pour que je puisse mettre ça en place pour faire un truc joli. Comment ça, 52 ans bientôt ? Oh non, arrêtez, c'est vrai que mon anniversaire arrive là. Non. Voilà, on va essayer de faire ça. C'est le projet. Si vous ne le voyez pas à la rentrée, c'est que j'aurais pas trouvé les partenaires. Mais bon, on va essayer quoi. Mais j'aime trop cette idée quoi. C'est vraiment le truc que je veux faire quoi. C'est mon projet principal dans ma tête quoi. Ouais. Terrible. Alors, vous l'avez compris, on va pas faire que jouer quoi. L'idée c'est de jouer. Moi, je pense que je vais me marrer. Jouer doucement, parce qu'à mon âge, bon, l'arthrose, tout ça, dans la tête, ça ne va pas toujours aussi vite que je voudrais. Donc, on va jouer un petit peu, mais surtout, on va explorer, découvrir pourquoi ce jeu, il est bien, pourquoi c'est une vraie passion, pourquoi toi, donc mon invité, pourquoi tu joues à ce jeu-là, et en profiter pour parler du parcours de l'invité, du monde du jeu vidéo en général. Voilà, c'est terrible. Et de la vie, et du beau temps, et de l'amour. C'est terrible. Donc on va faire ça. Et quand tu vas plus pouvoir dormir, tu vas penser... Ah oui, c'est mignon. Il y a Fusion qui dit... J'adore. Où est-ce que tu es ? Je t'ai perdu. Quand tu vas plus pouvoir dormir, car tu vas penser à comment améliorer ma maison dans Minecraft. Voilà. Et puis à propos de cette émission, qui donc, je l'espère, va être lancée à la rentrée, eh bien, j'ai peut-être une petite surprise avant, disons, avant la fin juin, mais je n'en dis pas plus. Merci Delphi pour le 16e mois d'abonnement, je le prends comme un encouragement. Le Parisien, je lis souvent, non, il y a Horn qui dit, coucou Sam, tu streams toujours chez toi, on est d'accord ? Non, en fait, je voulais faire plus, je voulais plus streamer, notamment à la rentrée, je voulais aussi ne plus déplacer le matériel en permanence, connecter, reconnecter, vous savez l'émission du vendredi, c'était un grand déménagement, il fallait privatiser la salle à manger familiale, à chaque fois, tout installer, les caméras, le son, la déco, tout connecter, tout retester. Ça nous prenait un temps fou avec Joe, vraiment des heures en fait d'installation, de désinstallation. Et en plus, ça abîmait le matériel parce que les caméras, tout ça, ça n'aime pas trop tout ça. Et donc, en fait, voilà, je loue un petit studio à côté de la maison, à quelques mètres, où j'ai mis tout mon matos et où je ne le bouge plus. Et où je vais pouvoir. L'idée, c'est d'avoir un endroit pour faire tout ce dont je suis en train de vous parler. Voilà. Petit investissement personnel, mais à un moment, il faut ce qu'il faut. Allez, on accélère un petit peu. Dans quelques minutes, je fais un petit raid et je vous laisse parce que justement, j'ai des rendez-vous pour essayer de trouver les partenaires pour les trucs dont je viens de vous parler. Hysteria Play, merci pour le 18e mois. Bon, les casserolades, ça va être vite vu, hein, déprime les ministres. Le Parisien nous dit quoi ? Qu'à chaque déplacement hein, de ministre, eh bien, on a des casserolades, les visites étant presque toutes marquées quand même. Hein. Par des manifestations bruyantes comme contre la réforme des retraites, les membres du gouvernement commencent à fatiguer. Ça leur met un petit coup au moral. Macron, lui, va multiplier les déplacements surprises. Hein. Le Parisien nous explique que le président... Soleil, je suis assez d'accord avec le mot casserolade. Je suis d'accord avec toi, j'en ai parlé hier. Je ne suis pas très fan du mot. Ouais, je suis assez d'accord. Le président a trouvé le moyen d'éviter les broncas. Il ajoute des étapes lors de ses visites officielles pour aller à la rencontre des Français sans comité d'accueil hostile. Et pour cause, c'est des petites visites surprises. Hop, on arrête la voiture ici. Voilà, personne n'est au courant. Bah, du coup, il n'y a pas de casserole. Ouais, ou beaucoup moins. Charivari, j'aime bien. Donc ça, c'est le Parisien. La petite blague, c'est que le journalisme est une activité humaine. Tant mieux, d'accord. Et du coup, il y a des petits bugs. Page 18 dans le Parisien, un article sur Mbappé peut-il être privé d'une cinquième coureur de meilleur buteur. Ça, c'est la page 18, je vous l'ai montré tout à l'heure. Page 20, le même article. Copier-coller. Page 18, Mbappé. Page 20, Mbappé. Voilà. Bon, du coup... Ça leur a pas coûté cher de faire cette deuxième page. Ça arrive, c'est humain. Bon, c'est la première fois que je le vois en 30 ans de lecture de la presse, mais ça m'a bien fait rire. Tidrao, Xalis, merci pour le 21e mois. Ça montre bien que c'est une activité humaine. Voilà. Ils n'avaient peut-être pas pris de café, l'enfou. Ouais. Voilà, voilà. Voilà. Le Parisien qui ne boit pas assez de café. Voilà, exactement. Et puis, timing parfait, eh bien on va finir avec un petit horoscope. Alors, vous avez déjà réagi aux cartes de tour, ce qui veut dire que je vais vous poser une question sur l'actualité pour vous départager. Ceux qui sont là pour la première fois, j'explique. Quand on arrive sur la page horoscope du Parisien, on n'y croit pas, ça n'est pas scientifique, mais ça nous fait rire. Merci beaucoup JDG du 29. Eh bien, le premier et la première à me donner son signe astrologique dans le chat, on lui lit son signe, ce qui nous permet de dire beaucoup de bêtises. Maintenant, pour vous départager, je vais trouver une question sur l'actu. Ok, je crois qu'il y a une finale de Coupe de France de football qui arrive. Donnez-moi l'affiche de la finale et en même temps votre signe astrologique dans la même réponse. Le premier qui me donne l'affiche de la finale de la Coupe de France de football, oh, je crois qu'on l'a. Ouais, je crois qu'on a un gagnant ou une gagnante. Et c'est pop, je l'ai vu. Où es-tu ? Je t'ai perdu. Je crois que c'est Tom Tomac Verso Nantes. Ah Nantes, il y a une faute. Il y a une faute, il manque un S à Nantes. Et je suis un maniaque de l'orthographe, je ne peux pas te donner la victoire. C'est Nantes sans S. Je ne peux pas te donner la victoire, j'en suis désolé. C'est une des règles de ce jeu. Tom Tomac, c'est dommage. Du coup, c'est Poisson. C'est l'Extratovic qui m'a dit Poisson sans faute d'orthographe, Nantes sans faute d'orthographe, Toulouse sans faute d'orthographe. Dommage. Dommage pour notre ami Tom. Qui a glissé la faute du joueur français, là, qui a glissé sur le S de Nantes et oh, dommage, j'y étais presque. Donc du coup c'est Poisson. Alors la bonne nouvelle c'est que Poisson on l'a la dernière fois qu'on l'a eu c'était il y a très longtemps. Parce que les poissons voilà pour taper alors pour faire les couillons dans la flotte il y a du monde pour taper sur un clavier ben, je peux vous dire que les poissons ils sont pas souvent premiers hein, en course. Donc bravo les poissons et les poissonnes bien sûr. Hein, Poisson. Je remercie Indinda Place pour le 26 mois d'abonnement et qui a essayé de m'acheter en disant Bélier, c'est trop mignon. Poisson, bon bravo les poissons, profitez-en parce que vous êtes rarement en tête hein, quand même. Hein. Je sais pas ce que vous êtes parlé. Peut-être des gens très sympathiques, vous n'êtes pas très rapide quand même. Cœur, votre vie sentimentale sera plutôt agitée. Agitée. Agité, vie sentimentale. Alors ça peut être bien ou pas quoi. Ouais. Pour l'instant, c'est pas faux, dit Mopinou. Ok. Je continue les poissons. Réussite. Les démarches que vous entreprendrez, les contacts sociaux que vous aurez, vous satisferont pleinement. Ça va en vrai. Tiens, TVA dit prise de tête avec mon mari et tu es poissonne. Tu vois, ça marche, c'est scientifique. Je le dis toujours, l'horoscope c'est vrai, c'est scientifique, c'est prouvé. Tenez, on va lire. La forme, protégez votre gorge. Poissons, les poissonnes qui me regardaient là. Ça picote, dites-moi. Ça picote la gorge. C'est normal, c'est écrit. Malade, TVA me dit je suis malade. Voilà, vous êtes malade, ça picote? Non. Ah, de FR Player Twitter. Non, mais ça va piquer, tu vas voir, ça va piquer. C'est l'hameçon, monsieur Dodo, excellent. C'est l'hameçon. Oh non, pas encore, je sors d'une grippe, me dit. Mais si. J'ai mal aux bronchies, tu vois, tape Discard TV, confirme. Véridique, me dit TVA. Zvéboubou, c'est la pollution de l'eau. Ouais. Protégez vos bronchies, ouais. Voilà. Je suis poisson et j'ai une angine, me dit Fit Statique. T'es scientifique? Ça gratte, me dit Druyo, tu vois. Marie Golotte, joli, pseudo, merci pour le sixième mois. Marie Golotte, je kiffe. Voilà. Bonjour jeune bolide, j'arrive à la fin à cause que j'aime dormir. Oh Narkis, Rotal replay, mais c'est très gentil. Pourquoi on lit l'horoscope des poissons rouges alors qu'ils ont oublié dans 10 secondes, me dit El Chizen. J'ai la ref. Ok. Bon, hey, en vrai, vous savez quoi? Je me suis régalé. Merci pour la qualité de nos échanges, votre rigueur, votre réflexion. Je viens de débrancher l'iPad à l'arrache. Votre réflexion sur l'actu, votre humour, les dingueries que vous dites et tout. Il y a 1, 2, 3 Lollipop qui dit ah, mais c'est génial ici. Mais c'est pas moi qui suis génial, c'est vous, vous êtes formidable. On range la tablette, on a lu les journaux, on se retrouve. Hey, ce soir, regardez, dans. C'est ici. Dans. C'est où? C'est là. Dans l'hebdo, Étienne. Regardez l'affiche de malade. Ça va sentir le gamer ce soir, 20h sur cette chaîne, c'est la 31e de l'hebdo Étienne, chaque vendredi soir à 20h avec 4 invités, alors journalistes, youtubeurs, streamers, on revient sur l'actualité, là il n'y a pas de journaliste, ah si Julien est journaliste un peu jeu vidéo, mais surtout du streamer, du gamer, voilà, ça va sentir le gaming, ça va être formidable. Donc ça c'est ce soir 20h, voilà, une petite surprise, peut-être un petit peu de cuisine, je n'en dis pas plus. Hop là! Et maintenant, on prend le petit Mac qui traîne derrière. Pourquoi ? Pour faire un raid. Parce qu'ici, on aime soutenir les autres créateurs de contenu et créatrices, les autres streamers et les autres streameuses. Pour ceux qui sont là pour la première fois, ici, depuis 2 ans et demi, on raid après chaque stream, histoire de profiter de la belle audience que vous composez, que vous faites, que vous construisez pour aller soutenir d'autres streamers, d'autres streamers. Donc, qu'est-ce que je fais ? Tiens, j'ai déjà des propals, je vois du dessin japonais, je vois plein de choses. Je vous mets une petite... une petite scène de pause. Je vous mets 2 minutes chrono, pas une seconde de plus, pour voir la destination, trouver la destination, et puis on raid tous ensemble. 2 minutes de musique pour les abonnés, une petite pub pour ceux qui ne le sont pas, et dans 2 minutes et pas une seconde de plus, on raid. Voilà. À 11h59, je suis censé être en ligne pour un coup de fil. Vite, Samuel, dépêche-toi. À tout de suite. On va où ? J'adore cette chanson.
can't recall the shame that underscores the fame. Weak souls walk around here.
Ok, j'ai trouvé. Ok, j'étais en train de, d'envoyer un SMS parce que je suis censé être un rendez-vous téléphonique pour parler de Twitch, justement. Hop, j'ai trouvé la destination. On ne peut pas parler d'une petite streameuse, elle a déjà une belle communauté. Il y a déjà, je crois qu'elle stream devant presque 1200 personnes. Mais je crois que c'est la première fois ou alors la deuxième fois max que je la raid. Voilà. Et, et on m'a dit que c'était un joli contenu qu'elle proposait. Et regardez, justement, sur la chaîne de Lady Sunday, là, maintenant... tout de suite, eh bien, un débat sur les youtubeurs ont-ils le droit de se plaindre. C'est un sujet qu'on abordera notamment ce soir dans l'hebdo Etienne. Bah, vous allez vous préparer votre réflexion là-dessus, regardez. Hop, donc Lady Sunday, pour ceux qui se perdent en route, je charge le raid. Et je vous retrouve ce soir à 20h, voilà, pour l'hebdo Etienne numéro 31. Le raid est en train de se charger, ça part dans 5 secondes. Merci pour ce matin, je me suis régalé. Voilà. 3, 2... 1. Soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous et à ce soir. Ciao, ciao.